Proposerai avant de nous engager sur les points que nous allons aborder, à savoir les cinq points suivants, l'audiodescription, les enjeux, les cadres légaux, un état des lieux, premier point. Deuxième point, qualité et déontologie. Troisième point, offre, mode de diffusion et mode d'accès. Quatrième point, budget et financement en amont. En aval, c'est-à-dire que nous allons du créateur au consommateur. Enfin, 5, médiation, pratique culturelle, mixité des publics, conquête de nouveaux publics. Une réalité qui concerne directement tous ceux qui sont présents dans cette salle, de quelque côté de la table que vous vous trouviez. L'audiodescription mérite d'être défini, mais nous avons avec nous des spécialistes, donc à un moment donné une petite définition sera proposée au moment opportun. Et avant de commencer cette table ronde sur les thématiques que je viens de citer, je souhaitais donc que chacun d'entre vous, au niveau de cette table, veuille bien se présenter, certes, mais au-delà de la fonction, peut-être simplement dire quel était le cœur de l'activité qui se cachait derrière la fonction. D'accord ? Quelles étaient les deux ou trois missions principales que vous meniez ? Et potentiellement, si vous avez en quelque sorte un chiffre optimiste à donner, à communiquer, lié à votre domaine d'intervention, à une évolution, à tout élément susceptible de donner un repère, j'aimerais que vous en profitiez pour nous le communiquer spontanément à l'occasion de ce tour de table. Alors, la première victime de cette présentation sera Séverine Hamelin, à laquelle je propose donc de bien vouloir se présenter, dire quel est le cœur de sa mission au sein de son institution, et puis peut-être nous révéler un ou deux éléments pertinents liés et emblématiques sur l'année qui vient s'écouler ou la période qui vient s'écouler. Vous êtes prête à
Voilà. En tout cas, moi, je travaille dans le Centre Dramatique National, donc en région Pays de la Loire, à Angers, depuis longtemps. Ça fait 20 ans que je travaille sur la question du public, quasiment longtemps sur la question du public. Et depuis 10 ans, en fait, on a un nouveau lieu qui s'appelle Le Quai, donc qui a été construit, donc, ouvert en 2007, donc un grand lieu avec plusieurs salles de spectacle, un lieu très moderne. Et donc une nouvelle direction est arrivée à ce moment-là, et c'est à ce moment-là que nous avons pu aussi nous poser cette question d'accessibilité dans un sens plus global, et notamment pour les personnes déficientes visuelles. Avant, c'est vrai qu'on ne se passait rien, en fait, de ce point de vue-là. Donc ça, c'était grâce à un nouveau lieu plus moderne, qui était de fait plus accessible, à une direction plus à l'écoute aussi, en 2007. Et ça, pour moi, c'est en disant une vraie évolution, parce que pour moi, le point positif pour moi, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, dans mon métier, un moment où il n'y avait rien, il ne se passait rien pour ces publics-là dans le théâtre, parce que nous, en fait, on programme et on produit des pièces de théâtre. On en produit 6 à 10 par an, et on a un accueil d'une quarantaine à 50 spectacles par an dans le lieu. Bien sûr, tout n'est pas accessible, hélas, hein, mais en tout cas, on fait de gros efforts, parce qu'aujourd'hui, on est rendu à 3 audiodescriptions, plus des spectacles qui vont être accompagnés. On a sur des concerts, on fait de l'accompagnement spécifique pour les personnes déficientes visuelles, c'est-à-dire qu'il y a un programme en braille et gros caractère, et puis on est présent aussi, parce que justement, c'était très bien dit dans les témoignages sur la place aussi de l'humain et de la rencontre, et nous on croit aussi beaucoup à ça, bien sûr, à la technologie et aux techniques, hein, on ne ferait rien sans, mais après, voilà, aussi à nos rôles à nous, en fait, voilà, aux rencontres. Et l'autre point positif en 10 ans, c'est aussi peut-être, en fait, quand même, alors, on en parlait hier au soir, la fidélisation à certains publics. C'est-à-dire que quand on a démarré à 10 ans, forcément, il y avait presque le public ou des gens qui venaient d'eux-mêmes, voilà, avec des proches de manière spontanée. Le fait d'avoir mis en place des moyens techniques comme une description, on a pu travailler et on a fait ça à d'autres publics. Et là, nous, on voit aujourd'hui, alors ils ne sont pas forcément très nombreux, mais par contre, on a vraiment un noyau fidèle et de gens qui sont passés, qui sont devenus des abonnés. Enfin, vous voyez, et ça, c'est, pour moi, en tout cas, ça me touche beaucoup parce que ça veut dire qu'il y a quand même c'est pas des gros chiffres. En tout cas, c'est une vraie réussite puisque voilà, on a réussi à fidéliser un public grâce à un regard porté sur la différence qu'ils avaient peut-être pour accéder au mieux au spectacle.
Merci beaucoup, Céline. Rachel, est-ce que vous acceptez de prendre la suite? Effectivement, je me retrouve aussi dans ce que Céline vient de dire, puisque le Centre Lyrique programme la saison à l'Opéra, mais aussi au niveau de la création. On est en charge d'une jeu production par an qui tourne ensuite dans différents lieux. En France et en Europe, et puis ça c'est pour nos missions principales. Moi je suis donc médiatrice culturelle pour le Centre Lyrique depuis 3 ans, et effectivement on a aussi une mission de rendre accessible cette saison culturelle lyrique. Donc on propose bien entendu un certain nombre de choses, d'actions, et bien entendu nous avons donc 2 opéras accessibles en audio description donc on travaille avec Accès Culture à Paris qui gère ces audio descriptions. J'en parlerai un petit peu plus tout à l'heure. En termes de chiffres, je retrouve effectivement ce que disait Séverine. On a aussi on travaille avec des associations mais aussi avec des particuliers, et qui sont fidélisés, qui reviennent régulièrement parce qu'ils sont très très contents de ce que l'on propose. Voilà, donc bien sûr on essaye toujours de diffuser au maximum l'information comme on peut pour en avoir toujours plus, mais l'Opéra Théâtre qui a réouvert donc en 2013, Place de Jaude, est quand même une salle très petite, une salle de 600 places. Donc effectivement, on a en général des groupes de 30 personnes, ce qui est relativement bien pour une audio description. Voilà.
Merci beaucoup, Rachel. Cette fois-ci, nous nous tournons vers ces messieurs. Qui souhaitez-vous commencer?
Je peux commencer?
Oui, c'est quelqu'un qui parle.
Bonjour à toutes et tous. Donc, je m'appelle Guy Coulongeon. Je suis le président fondateur de l'association Livoirien, qui a été mis en création en 2004. Voilà, donc nous avons bientôt 13 ans de vie sur Clermont-Ferrand. Le but de l'association Livoirien, c'est la mixité entre personnes en situation de handicap et personnes valides, en utilisant comme support la culture et surtout le théâtre. Nous avons mis en place des ateliers théâtre où justement les personnes en situation de handicap côtoient les personnes valides, et tout ce petit monde participe aux ateliers, participe aux spectacles. Nous produisons des spectacles donc avec des personnes en situation de handicap et des personnes valides, mais des spectacles qui tournent un peu partout dans la région. Ce n'est pas du tout des spectacles basés sur le handicap. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur le Livoirien? C'est que, entre autres, au-delà de ces ateliers théâtre, nous avons aussi développé un festival qui s'appelle Culture dans tous les sens, c'est la 9e année cette année qui va bientôt commencer là. Et ce festival, toujours la même idée, ça a été d'ouvrir aux personnes en situation de handicap et personnes valides, ce qui est quand même très intéressant, et aussi une chose qui m'a paru importante, c'est que ce soit un festival qui est produit dans des salles comme la Maison de la Culture, comme l'Opéra, et vraiment dans des vraies salles de spectacle et pas dans des arrière-boutiques ou dans le milieu institutionnel. S'il y a des questions après, je pourrais répondre, mais bon, nous intervenons aussi dans les écoles, les choses comme ça. Mais en créant des spectacles et pas uniquement en faisant de la sensibilisation.
Merci beaucoup.
J'allais m'arrêter là-dessus.
Hein. Oui, je l'ai senti, vous savez.
Bon, alors je vais continuer.
Merci de me donner la parole. Alors en fait, Patrick, on enchaîne.
Oui.
Alors, je suis Patrick Saonit, je travaille à l'association Valentin AUI. J'ai eu la chance, dans les années 80, en fait, qu'on me demande de me prendre en charge la mise en place de lieux d'inscription en France, parce que ça n'existait pas. Pour résumer un petit peu l'évolution de lieux d'inscription en France, c'est qu'en 80, j'étais un barjot, et en ce moment, je suis un vieil ours. C'est-à-dire qu'en fait, le lieu d'inscription m'a un peu dépassé même les idées qu'on avait. Au tout début, on nous a dit, mais de toute façon, c'est complètement stupide le lieu d'inscription. On sait très bien que les aveugles ne vont pas au cinéma, ils ne regardent pas la télé, ils se contentent de la radio. C'est vraiment ce qu'on nous sortait, même au sein même de l'association en fait, dans laquelle je travaillais. Certaines personnes ne croyaient pas à le lieu d'inscription, sauf une personne avec qui j'ai travaillé. Enfin, on était quatre dans l'équipe en fait, à travailler sur le lieu d'inscription. Il y avait une personne bénévole qui a dit, moi voilà, mon but, ça va être que les déficients visuels puissent aller au théâtre, qu'ils puissent regarder la télévision, et le DVD n'existant pas à cette époque-là, qu'ils puissent avoir des VHS avec de lieux d'inscription. Une fois que j'aurai démarré ça, je m'en irai. Et donc il a quitté l'association, effectivement, quand les premières VHS sont arrivées avec de lieux d'inscription, qu'il y a eu une première expérience, un premier démarrage chez Arte, en fait, de lieux d'inscription diffusés. Donc effectivement, on avait démarré avec Accès Culture, et après c'est devenu effectivement Accès Culture, le théâtre, et puis il y a des spectacles, puis du fou. Et que certains cinémas commençaient à faire de lieux d'inscription avec du très gros bricolage, très lourd à mettre en place. La petite anecdote, c'est qu'il est décédé l'année où les cinémas, la première grande chaîne de cinéma a équipé toutes ces salles. Et à programmer toutes les semaines en fait, des films en lieu de description. Donc là encore, il nous a fait un petit clin d'œil. Et voilà, c'est quelqu'un qui a beaucoup aussi apporté à lieu de description. Et voilà, je vais m'arrêter là. Mais
d'accord.
C'est.
Elle t'a pas arrêté, toi, t'as une chance.
C'est parce que j'ai vu son regard.
Alors, Stéphane.
Oui, moi je suis Stéphane Bouchon. Je suis l'un des responsables des projections de Cinéfac. Au sein du campus universitaire, on essaye depuis maintenant presque 30 ans de projeter des films sur le campus universitaire. La première fois qu'on entend parler d'audio description, c'est quand on est passé vers l'ère du numérique, où les apprentis projectionnistes devaient passer une épreuve sur l'audio description justement, donc en utilisant la technique du Fidelio, qui est une technique d'audio description qui est pour les cinémas, mais pas que pour les cinémas, puisqu'elle peut être utilisée aussi pour d'autres spectacles, ou même pour des musées, des salles d'exposition, si je me souviens bien. Et donc, tout le monde essayait de pratiquer cette technique, et nous, au fur et à mesure, les projectionnistes apprenaient à l'utiliser, mais ne s'en servaient pas. Et il y a quelques années, donc, on a monté un projet avec l'université et les équipes de court-métrage, pour avoir un projecteur numérique. Et donc dans le dossier, on a dit, et pourquoi pas utiliser l'audio description pour Cinéfac et toucher le plus large possible les cinémas. Enfin, en tout cas, des personnes à déficience visuelle. Mais surtout, c'est que les cinémas à Clermont-Ferrand, en fait, ne l'utilisent pas.
Alors, on va peut-être aborder le sujet un tout petit peu plus tard, effectivement, pour voir cette hétérogénéité de contexte, que ce soit au niveau du cinéma, la tendance naturelle est d'associer audio description et cinéma. Aujourd'hui, on doit systématiquement continuer notre phrase en abordant le spectacle vivant, les arts graphiques, la danse, les événements sportifs. Donc, on va essayer d'avoir ce réflexe-là. Et dans tous les cas, avec ce premier tour de table, vous avez sans doute pu réaliser la diversité des profils en ce qui concerne la plupart d'entre nous. C'est-à-dire qu'effectivement, Rachel et Séverine ont des points communs et vont sans doute pouvoir mettre des parallèles ou alors inversement montrer des différences sensibles sur des situations de travail. En revanche, il va y avoir une véritable complémentarité d'expérience. Et c'est à Guy Coulongeon d'ailleurs que je propose le rôle de naïf. Puisque
ça marche très bien.
Puisque sur certains aspects, il n'est pas forcément promoteur d'une technique. Par exemple, on verra quelle est la place de l'audiodescription dans ton travail, Guy. Et aujourd'hui et à l'avenir. En revanche, il est concerné par la consommation de ce genre de prothèses techniques, comme on pourrait les appeler, et qui prennent de plus en plus de formes variées et qui bousculent beaucoup les repères. Puis-je proposer à Patrick de bien vouloir nous dresser très succinctement un petit peu le tableau lié au cadre légal, à partir d'initiatives privées, un cadre légal se met en place et une impulsion va être donnée. Ça correspond à une période donnée, elle va se faire peut-être en douceur, peut-être avec des grincements de dents, et dans tous les cas, les frontières vont bouger. Est-ce que vous voulez bien rappeler cette période que vous avez vécue directement?
D'accord. Alors, il y a des lois en fait, qui sont arrivées, qui, effectivement, dans les années 2005, disaient que tous les lieux devaient être accessibles, tous les lieux publics en fait, devaient être accessibles aux personnes en situation de handicap, tant le lieu que le contenu en fait, des salles, c'est-à-dire que pour quelqu'un en mobilité réduite, elle devait pouvoir aller dans la salle. Pour un déficient visuel, il devait non seulement pouvoir aller dans la salle, mais aussi comprendre ce qui lui était soit projeté sur un écran, soit présenté sur une scène. Il devait aussi avoir l'information aussi, pouvoir accéder à l'information de la programmation, par exemple, ou des choses comme ça. Cette loi, en fait, disait qu'avant 2015, tout devait être fait, et on avait beaucoup d'espoir, en fait, sur cette loi, sauf qu'en fait elle était très vaste et du coup elle demandait beaucoup de travaux, notamment sur l'architecture, et du coup en 2015, peu de choses ont été faites, et il y a eu du coup des dérogations, des choses qui ont fait que tout n'est pas encore en place, et beaucoup de gens ont attendu que des dérogations se mettent en place avant de se lancer dans des opérations. Une des chances de l'audiodescription, c'est que quelque part, c'est quelque chose qui non seulement est assez simple à mettre en place, c'est-à-dire qu'en fait, effectivement, il y a un très gros travail d'écriture de l'audiodescription, parce que l'audiodescription, c'est quelque chose qui se passe dans les plans des dialogues, qui ne doit pas expliquer ce qui se passe, mais permettre à la personne de comprendre ce qui se passe. Et quelque part, c'est quelqu'un qui écrit un texte, il a enregistré ce texte, et comme on l'a dit, il est diffusé dans un boîtier, ou sur votre smartphone actuellement, et vous avez un casque qui vous permet d'écouter l'audiodescription, ce qui fait que c'est totalement transparent pour les spectateurs qui sont autour de vous. Donc quelque part, techniquement, c'était quelque chose de simple à mettre en place, pas très cher, et on se disait que ça pouvait se mettre partout très rapidement en place. Il a fallu quand même attendre pour le cinéma que le numérique arrive, donc ça c'est les années 2012, où comme Stéphane en a parlé, ce qu'on appelle le DCP qui a remplacé la pellicule, c'est donc une copie informatique, on va dire, du film, avec 8 pistes audio, dont une est dédiée à l'audiodescription. Donc là, cette arrivée a fait que ça a été encore plus simple techniquement pour le mettre en place, et du coup, certains cinémas se sont dit, puisque je ne peux pas rendre accessible aux personnes à mobilité réduite mon cinéma, je vais au moins faire l'audiodescription. Et comme ça, il y a des cinémas qui se sont mis en place. Et certains groupes, grands groupes de cinéma, il y en a deux en fait, qui là aussi se sont dit à un moment donné, on ne va pas pouvoir tout faire, mais on va se lancer en fait et on va mettre l'audiodescription en place. Il y a eu aussi quelqu'un de très moteur en fait dans la mise en place de l'audiodescription, ça a été le CSA, qui s'est vraiment penché sur l'audiodescription et la déficience visuelle. Ils ont dit, voilà, on a travaillé pour le sous-titrage et les sourds et malentendants. L'audiodescription, ça semble simple à mettre en place, donc on va imposer, non pas quelque chose de très lourd pour les chaînes, en fait, mais on va mettre des quotas qui étaient relativement souples au départ. C'était 6 programmes par an à mettre en place pour les grandes chaînes. C'est arrivé jusqu'à 90, je crois, en 2016. Et effectivement, la plupart des chaînes ont joué le jeu. Je vous ai parlé d'Arte qui s'est lancé avant ses quotas, mais d'autres chaînes comme TF1 ou M6 qui ont aussi démarré un petit peu avant que les quotas soient là et qui ont respecté les quotas. Une des chaînes qui s'est fait tirer l'oreille, ça a été le groupe France Télévisions, mais qui, par exemple, l'an dernier, a carrément rattrapé son retard parce qu'ils ont diffusé 700 programmes.
Puis-je être l'avocate de France Télévisions ?
Pardon ?
Puis-je être l'avocate de France Télévisions ?
Oui.
2012, 190 programmes, 3 programmes et demi par semaine sur les chaînes du service public. France 2, 67 programmes, France 3, 10 programmes, France 4, 17 programmes, France 5, TV5, 96 programmes. En 2014, 547 audiodescriptions. En 2015, 730. En 2016, je n'ai pas les chiffres.
760.
Ah oui, donc ça veut dire que ça... Voilà.
Alors, il y a une petite date qu'on peut rajouter juste avant. Une réunion CSA, où quelqu'un a dit... Quelqu'un a dit, une très haute responsable du CSA qui a interpellé quelqu'un de France Télévisions, qui leur a dit, mais... Il n'y a pas d'audio-description sur France Télévisions. Et la personne a dit, oui, mais c'est très compliqué. Et la personne a coupé court, elle a dit, voilà. Le CSA, on a deux sièges parmi les votants qui élisent votre président. Dites-lui qu'on veut l'audio-description, sinon on va peut-être changer nos votes. Et ça s'est enchaîné. Alors ça, c'est une petite anecdote méchante. Par contre, l'anecdote, là, le truc gentil, c'est qu'il y a quelqu'un, effectivement, à France Télévisions qui s'appelle Jean-Louis Navarro, qui a pris en main les choses et qui, lui, non seulement... Parce qu'on pourrait se dire, ouais, il y a 700 programmes, c'est de la quantité, mais on peut faire de la quantité sans qualité, et quelque part, lui, veut de la quantité avec, si possible, de la qualité.
Alors, la dimension qualité, vous avez compris, on va l'aborder effectivement un tout petit peu plus tard, et aussi en termes d'horaire, de programmation, il y a une problématique hein, liée effectivement à ces chiffres, d'où toujours cette grande vigilance lorsque nous énonçons des chiffres, savoir ce qui se cache, ce que l'on veut dire, ce que l'on doit en déduire, et surtout, il est relativement facile d'évoquer des chiffres, hein, c'est ce que je viens de faire, la preuve, je vous ai même noté, pour ne pas me tromper. En revanche, la plus grande difficulté, c'est d'évaluer l'impact, d'évaluer la valeur de ces chiffres-là, ce qui s'est véritablement fait. Alors, manifestement, quand on consulte, quand on fait des recherches sur Internet, il est évident que beaucoup de choses se sont passées, ont été en ébullition sur la période 2005, 2011, 2012, avec d'ailleurs beaucoup de manifestations, d'écrits, de blogs, d'articles. Et puis ça s'est énormément calmé. Alors, on vient de dresser un petit portrait donc, de l'aspect audiovisuel, télévision. Est-ce qu'on pourrait se tourner cette fois-ci vers le spectacle vivant et savoir ce qui s'est passé à la même période ?
Alors, moi, je ne vais pas avoir le retour, malgré je travaille depuis longtemps dans le secteur, je passe, je pense, l'expertise à monsieur. Après, moi, je peux juste raconter pour nous comment ça s'est un peu passé, et je pense que c'est lié aussi à ce qui se passait, je pense, au niveau national. Comme j'expliquais, donc, le Centre Dramatique existe depuis 1986 à Angers, hein, donc on a fêté nos 30 ans. Les questions des publics n'ont pas été, de toute façon, des publics en général, au milieu des années 80, n'avaient pas la même intensité, et même les postes dédiés au public n'étaient pas, ça n'avait rien à voir avec aujourd'hui quand même. Il faut aussi le noter, c'est important dans le spectacle vivant, comme dans d'autres secteurs d'ailleurs d'activité, hein, ou même la notion de médiateur. D'ailleurs, moi, je n'ai pas le titre de médiateur. C'est arrivé beaucoup plus tard, en fait, enfin, même si ce nom de médiation culturelle existe, Jean-Claude en a parlé depuis très longtemps, mais c'est vrai que c'est assez notable de voir que dans certaines comme ça, institutions qui ont quand même un certain âge, on n'a pas les mêmes terminologies, et parfois c'est assez étonnant. Enfin, c'est lié aussi des fois à l'histoire et aux directions des structures. En tout cas, pour nous, à Angers, moi, quand j'ai démarré sur la CDN, il n'y avait pas du tout de prise en compte de ces publics qu'on appelle aujourd'hui en grossièrement les publics empêchés. Voilà, et après, quand on détaille un peu la question de l'accessibilité et de handicap, il faut être un peu clair aussi avec les mots. Moi, il me semble que c'est en 2001 où nous avons eu la chance d'accueillir en fait un artiste chorégraphique qui s'appelle Angelin Préjocage. Ouais, c'était un spectacle de danse qui était auto-décrit. Pour moi, c'était une révélation aussi. J'ai aucun en plus personnellement de rapport avec le handicap, que ce soit par mon expérience personnelle, familiale, vous voyez, donc en fait c'est vraiment des choses que j'ai appris moi aussi au contact des publics dans mes différents postes. Et là en fait pour moi ça a été quand même quelque chose de très fort parce qu'en plus c'était de la danse quoi. Donc, pour moi la danse c'est extrêmement visuel. Moi qui suis comme très issu du monde théâtral avec le texte, etc. C'est ce qui me semble assez naturellement accessible. Alors ça après, ça c'est mon point de vue à moi, hein, donc c'est toujours, ça peut être débattu. Et voilà, et donc c'était un vrai, pas un choc, voilà, c'était un mot fort quand même, mais en tout cas, voilà, un vrai questionnement, ce spectacle, voilà, et c'était intéressant aussi parce que c'était l'artiste, du coup, et son équipe qui s'était questionnée et qui avait, du coup, par eux-mêmes, les spécialistes peut-être d'ailleurs pour mettre en place, je ne sais pas, mais à l'époque, il me semble que ce n'était pas Exculture qui travaillait avec eux, hein,
non, je crois
pas. Ils travaillaient, sans parler. Donc voilà, c'était le premier, donc 2001, donc c'est quand même récent en même temps, enfin à la fois. Voilà, c'était voilà, une question, tiens, ça existe, qu'est-ce qui se passe? Et là, après, pour notre part, en tout cas, au CDN, ça a été bah, des recherches un petit peu, qu'est-ce qui se fait, où ça. Donc moi, je, notamment dans ma région, donc vous l'avez compris, plutôt Pays de la Loire-Bretagne, je me suis rapprochée d'abord du TNB à Rennes, qui avait déjà voilà, mis des choses en place. Hein. Voilà, donc discussion avec des... Voilà, Théâtre National de Bretagne, pardon, à Rennes. Et du coup, on a voilà, discussion, voilà, donc réflexion. Et après, la deuxième vraie rencontre qui a été pour moi notable, et c'est en 2007, du coup, au CDR de Tours, donc voilà, c'est un peu plus dans ma région, où là, je suis allée voir un spectacle en audiodescription, voilà, de théâtre, qui était donc fait par Axé Culture. Et donc, là aussi, rencontre et discussion, du coup, avec, je dirais, cette... Alors, c'est pas une institution en soi, mais par contre, pour moi, c'est une institution, et je pense que peut-être ma jeune partagera ce point de vue, dans le sens où, s'il n'y avait pas eu cette rencontre pour moi à ce moment-là, je pense qu'on n'aurait pas pu, moi et les équipes du CDN, mettre en place des choses à Angers. Donc, à un moment donné, il faut, enfin, pour moi, en tout cas, il a fallu une rencontre. C'est pas, on avait conscience du public, on avait conscience qu'il y avait certainement un manque, on avait conscience aussi de la loi de 2005, enfin, oui, tout ça a été présent. Mais voilà, encore une fois, c'est une rencontre humaine, et donc, une explication aussi de qu'est-ce que c'est que l'audiodescription, voilà, vraiment, comment ça se fait, qui a fait que, voilà, après, on a réfléchi à cette question-là.
Mm-hmm. Et est-ce qu'on peut dire que donc, cette loi handicap signée en 2006 a impulsé cette pénétration de l'accessibilité, donc égalité des chances, accessibilité, est-ce que c'est vraiment, ça a suivi d'assez près?
Moi, je pense que oui, on l'a en tête, enfin, je ne sais pas comment tu fonctionnes, mais...
Peut-être pas Rachel, forcément dans le sens des actions pour ces publics-là, parce qu'effectivement, comme on disait, c'est assez récent, mais peut-être en termes de politique tarifaire, peut-être, d'accessibilité, notamment de moyens financiers, plus, peut-être...
Et puis c'est les lieux, enfin, après, ils sont les opérables.
Et les lieux, bien sûr, moins adaptés que nous à nos modernes. Les lieux, maintenant, ont des normes avec voilà, une entrée pour les publics, donc en fauteuil, un accès PNR, des ascenseurs, avec de l'audio, etc. L'accès du bâtiment aussi.
Quelques années plus tard, en 2017, le ministère de la Culture et de la Communication édite un guide culture et handicap. Quel impact a-t-il sur vos structures? Est-ce que vous l'avez reçu? Est-ce que vous l'avez lu? Est-ce que, de quelle manière circule-t-il? Est-il pris en compte? Est-ce qu'a priori, ça fait partie d'initiatives effectivement gouvernementales qui ont du sens mais qui ont du mal à retrouver le terrain d'une certaine manière?
Oui, alors moi je parle pour
2017, enfin il a été édité à plusieurs reprises, mais voilà, il est réédité, ce qui veut dire qu'il a une histoire, et voilà, que signifie aujourd'hui ce guide culture et handicap édité par le ministère de la Culture et de la Communication? Est-ce qu'il vous concerne directement en tant que diffuseur ou créateur? Et,
je ne savais même pas qu'il existait.
Voilà. Bah, ça, j'allais dire, j'allais être un peu dur en fait dans ma réponse.
Mais non, c'est vrai. Hein.
Ouais. J'allais dire que, après, effectivement, je les ai dans mon petit chariot parce que je les ai amenés, parce qu'il y en a plusieurs d'ailleurs, parce qu'il y a Handicap Visionnel. Après, c'est vraiment très intéressant, mais j'ai l'impression que pour moi et pour nous, en tout cas pour voilà, l'équipe à laquelle je travaille, bah, il est arrivé après quoi. Enfin, en tout cas, j'en ai eu connaissance après. C'est-à-dire qu'heureusement que moi, j'ai rencontré des artistes, des gens qui sont questionnés sur cette chose, l'accès de culture. Et puis après, bah, le travail de terrain avec les publics, et notamment les associations, mm-hmm. avec des usagers, enfin des gens qui... Mais c'est vrai que... Mm-hmm.
Oui, Guy.
Je vais faire juste une petite parenthèse concernant ces guides-là. Là, donc ces guides viennent de sortir. Alors, il est en écriture, pas mal.
Il est accessible sur le numérique, donc il peut être lu.
Et téléchargé.
Oui, oui.
D'accord. Ouais. Non, mais moi, c'est pas sur celui-là que je vais dire. C'est sur un qui a été créé il y a pas mal d'années. Je me rappelle pas la date exacte. Je suis incapable. Ça m'a fait mais vraiment beaucoup rire. Ce document, donc moi je l'ai commandé, et alors la couverture était en braille. J'ai dit, super, le document est en braille. J'ouvre le bouquin, plus de braille. Terminé. Donc voilà, c'était bien beau d'avoir fait une belle couverture en braille. Et moi, c'est le contenu qui m'intéresse, la couverture. Bon, c'est bien de dire que je pouvais mettre une étiquette disant que c'est mon bouquin. Voilà.
Non, mais sérieux, quoi.
Ils sont ici, on peut les voir, effectivement, il y a une très belle couverture en braille. Voilà.
Ouais, mais pour moi.
Et après, voilà, je suis d'accord avec vous.
C'est moi, c'est le contenu qui m'intéresse. Hein. La couverture en braille, bon, bah, le braille est déjà assez, d'ailleurs, de Miquelet.
Parce que l'accessibilité est limitée à l'extérieur. Non, je crois qu'en fait, tout ce qu'on vous avait, même la première partie en fait, de cette journée, et ce qui est évoqué là, et je crois que je ne connais pas tout le monde, effectivement, quand des choses se sont faites à des endroits, faites à des endroits, c'est toujours qu'il y a eu de l'humain. Qu'il y a eu de la curiosité, qu'il y a eu de l'appropriation. Et on ne vient pas forcément d'un endroit où on côtoyait des déficients visuels, où on côtoyait le handicap. Ça peut être vraiment une étincelle, un déclic, une rencontre qui font qu'on a envie de faire les choses, qu'on arrive à bien les présenter, qu'on arrive à être soutenu effectivement par d'autres personnes, qu'on arrive parfois à avoir des soutiens financiers, mais ça, ce n'est pas toujours le cas et ce n'est pas toujours bloquant. C'est-à-dire qu'il y a, vous avez toujours des gens qui trouvent des moyens pour faire des choses avec peu de choses. Et c'est vraiment, vraiment l'humain qui est important, et c'est même l'humain qui est important parce qu'on peut faire tous les moyens techniques, technologiques d'accessibilité. C'est quand même bien de rencontrer aussi les personnes, quand même. C'est aussi ça, l'accessibilité. Oui.
Très bien. Je pense que cette petite rétrospective, hein, les petits points historiques... Et...
Ah pardon, Rachel, vous souhaitiez ajouter une précision?
Ça rebondit sur ce que disait Patrick. Je pense que ça tient aussi déjà au directeur de la structure, parce que c'est lui qui décide des budgets. Donc forcément, l'audiodescription, par exemple, d'un opéra, ça va entre 4 000 et 6 000 euros pour une représentation. Donc c'est quand même sacrément... ça a un coût, en tous les cas, donc il faut effectivement trouver le budget, parce qu'on n'a pas forcément de financement exprès pour cela, malheureusement. Donc ça tient en partie de la volonté du directeur de bien vouloir empiéter sur son budget artistique et autres pour pouvoir faire bénéficier d'un spectacle en audiodescription. Et puis ensuite... en second rôle, et bien bien sûr à l'équipe. L'équipe, que ce soit les personnes qui sont référentes au public, essayer de lire effectivement ces guides pour se renseigner, pour peut-être éventuellement faire des formations pour essayer de guider au mieux ces actions et de les développer.
D'accord. Parlons de qualité. Donc, on a bien compris que ces dernières décennies, hein, du coup, au moins des 10 dernières années, il y a une multitude de produits culturels accompagnés donc d'audiodescription, et ce qui signifie un souci, c'est celui de la qualité, de la déontologie, du respect de l'auditeur. Et ce souci a été en fait évoqué à travers l'initiative de deux personnes qui ont planché sur une charte. Est-ce que Patrick, qui manifestement a eu l'occasion de voir évoluer d'ailleurs cette charte peut-être, peut nous en dire quelques mots? Et surtout, je vais poser une question qui n'est pas une question de mon fait. Elle a été émise par Jean-Marie Plumosi.
Jean-Marc.
Oui, Jean. Ah bon, c'est Jean-Marc.
Oui, Jean-Marc.
Jean-Marie Plumosi, qui est membre de l'AFA, qui est l'Association française d'audiodescription, qui dit: le respect des règles d'un texte, quel qu'il soit, peut-il garantir la qualité d'un travail? Donc, cette charte, de quoi s'agissait-il? Comment est-ce qu'on pourrait en illustrer un peu les grands principes? Et comment peut-elle résonner par rapport à votre vécu?
Alors, l'histoire de cette charte, en fait, c'est, comme je vous l'ai dit, on a eu la chance de démarrer l'audiodescription en France. Et la première chose qu'on a fait, un petit gag, par exemple, le premier film Alors, on est allé aux États-Unis voir comment ça se développait, effectivement, pour tenir compte de leur expérience. Mais très vite, les États-Unis, l'Angleterre, l'Allemagne, on a décidé d'être assez indépendants et d'échanger sur ce qu'on faisait, tant au niveau technologique qu'au niveau écriture. Parce qu'il y avait des petites différences entre les latins, entre les anglophones, qu'est-ce qu'on voulait décrire ou pas. Et on a fait un premier film purement français, La folie des grandeurs. Et on a eu la folie des grandeurs, c'est-à-dire qu'on devait utiliser les blancs qu'il y avait entre des dialogues pour décrire ce qui se passait, et la folie des grandeurs, vous avez un quart d'heure sans un dialogue, et on a mis, mais on s'est défoulé, on a mis des tonnes, ce qui fait qu'au bout de 20 minutes, vous aviez la moitié des personnes déficientes visuelles qui n'avaient qu'une envie, c'était de jeter le casque, et de continuer à regarder le film tout seul. Donc effectivement, on s'est dit là, on a fait un truc de voyant pour voyant, à condition que les aveugles quand même nous disent que c'est très bien. Et en fait, on s'est un peu planté, même beaucoup planté. Donc on s'est dit là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler, on va montrer à un maximum de personnes notre travail, et c'est eux qui vont nous dire c'est bon, c'est pas bon, il faut aller dans ce sens-là, dans un autre. Donc pendant 6 ans, avec il y avait Jean-Marc Lubosi, il y avait Frédéric Gouin-Gouin, donc rédacteur de la charte. On a travaillé, on a confronté notre travail, nos idées, aux résultats et aux spectateurs qui étaient intéressés. Et quand on a vu effectivement que c'était bien que notre équipe fasse quelque chose, mais qu'il fallait que d'autres équipes aussi se lancent, parce qu'il n'y a pas qu'une seule façon de bien faire les choses, il pouvait y avoir différentes écoles, mais il fallait quand même un petit peu borner les choses, et pas trop les borner, c'est-à-dire laisser des libertés, mais quand même donner des directions. Et la charte poser bien les choses en disant qu'effectivement, il ne faut pas expliquer le programme, enfin, le film ou la pièce de théâtre, mais donner les moyens à la personne de le comprendre, et tout ça dans les plans des dialogues, donc vous pouvez lire la charte, hein, sur différents sites. Mais c'était important de poser ces bases-là pour que plus tard, ceux qui allaient arriver, en fait, respectent au moins ça. Et ça s'est révélé important parce que quand en 2012, effectivement, il y a eu des quotas, quand il y a quotas, il y a fabrication obligatoire à faire, quand il y a fabrication, il y a de l'argent, quand il y a de l'argent, il y a beaucoup de monde qui s'y met. Et par exemple, en 2012, avant 2012, on était 3 structures à faire de l'audiodescription pour la télévision et le cinéma. En 2012, il y en avait 46. Et moi, j'ai eu un petit gag à un moment donné, c'est que le téléphone sonne entre midi et 2. Je décroche et j'ai une femme qui me dit « Voilà, est-ce que je pourrais avoir une formation en audiodescription ?» J'ai dit « Écoutez, oui, on fait des formations, mais uniquement quand on va employer quelqu'un. » Elle dit « Non, non, mais là, en fait, j'aurais besoin d'une formation assez rapidement. » Et je lui dis « Mais pourquoi, en fait ?»« Bah, écoutez, parce que cet après-midi, en fait, il faut que je donne à mon patron, en fait, un texte d'audiodescription. » Et je lui dis « Donc là, au téléphone, il faut que je vous forme en 10 minutes. » « Bah oui. » Je lui dis « Bah non. » Puis voilà, donc voilà, la charte, voilà l'histoire de cette charte, c'était pour éviter tout ça. Le CSA était bien conscient qu'il y avait eu des dérives avec le sous-titrage sourd et malentendant, et il ne voulait pas que l'audiodescription suive le même chemin, même s'il y a eu quelques dérives. Bon, certains acteurs sont un petit peu effacés, d'autres un peu moins, mais voilà, le public est là, et on l'incite effectivement à se manifester pour dire quand ce n'est plus l'audiodescription. Mais c'était important effectivement qu'il y ait un texte quand même qui pose des bases. Alors la description, la charte n'a pas évolué parce qu'une charte ça aide mais ça dérange, et donc ben voilà, il y en a certains qui ne voulaient pas que la charte bouge, il fallait surtout qu'elle reste.
Alors elle a été signée, oui, en présence du ministre.
Et pas toujours appliquée par ceux qui
sont signés. Oui. Alors quel constat au niveau des audiodescriptions de spectacles vivants que vous avez pu programmer, est-ce que vous étiez particulièrement impressionné par justement la qualité du travail? Est-ce que vous avez mis des réserves? Est-ce que surtout le public que vous avez accueilli, que vous avez qui a interagi avec vous, s'est exprimé sur ce sujet?
Ben, je pense que effectivement, comme on a remarqué tout à l'heure, cette fidélité, cette fidélisation montre que justement c'est un travail de qualité et que du coup on vient à s'abonner et voilà, et à venir de plus en plus nombreux. Nous, comme je l'ai dit tout à l'heure, on travaille donc avec des associations mais aussi des particuliers. Les associations, c'est principalement AVH, le CRDV également, voilà, pour les deux équipes qui sont bien présentes sur le territoire clermontois. Quand je les rencontre, ils me disent tout le temps, on en veut encore plus. Mm-hmm. Voilà, et donc ils aimeraient avoir encore plus de spectacles en audio description. Malheureusement, comme je vous l'ai dit, ça a aussi un coût. Donc on est passé de 1, ma collègue, on est passé de 1 audio description à 2. Peut-être qu'on en aura 3, ça dépend toujours du budget. En tous les cas, il y a toujours, donc nous on met en place ce qu'on appelle une visite tactile avant chaque audiodescription qui permet donc aux personnes de venir gratuitement à l'opéra, de rencontrer l'équipe artistique, en général le metteur en scène, donc il pose des questions, donc déjà il se familiarise aussi avec le lieu. Et puis ensuite, on les fait monter sur la scène, sur le plateau, pour toucher donc les éléments de décor, voilà, qu'on leur décrit, si c'est en bois, de quelle forme il s'agit, si c'est une structure ronde, si c'est une structure rectangulaire, la hauteur, etc. Donc on précise tout ça. Et puis également, on leur présente donc soit les costumes, si les acteurs ne sont pas encore habillés, ou généralement, donc on réalise des petites planches comme celle-ci, qui présentent en fait, de manière générale, le personnage avec le
vous pouvez l'audio décrire, s'il vous plaît.
Guy
connaît Guy, oui, bien souvent. Donc une planche rectangulaire, vous pouvez présenter un des personnages. Donc là, en l'occurrence, il s'agit du personnage de Rigoletto, qui est donc avec une photo de croquis, des photos du personnage en scène avec le costume, et puis ensuite, différents petits morceaux de tissu que l'on peut donc toucher, et avec le détail, si c'est du velours, si c'est de la soie, etc. Voilà, pour se rendre compte donc du costume. Et donc ça, c'est très important. On a d'ailleurs de plus en plus de personnes qui viennent à ces séances avant le spectacle. Et régulièrement, mon directeur a des félicitations justement donc de cette qualité par rapport à l'audiodescription qui est faite via Accès Culture, mais aussi de ses visites. Et on a eu récemment donc une personne qui est venue lui dire à la fin le remercier parce que grâce à ça, ça lui a permis de voir le spectacle. Voilà, une personne qui était malvoyante.
Non, j'avais une petite question technique en fait. Comment ça se passe le description d'un spectacle vivant? C'est en live?
Oui. C'est en live. Alors il y a déjà
des étapes tout à l'heure, par exemple, c'était dans les blancs du film.
Oui, mais ça,
c'est dans les blancs
du spectacle.
Ben, c'est pareil en fait au spectacle.
Mais c'est en live. C'est quelqu'un qui le fait.
C'est pré-enregistré.
C'est pré-enregistré.
Accès Culture travaille comme ça en fait. Eux, ils viennent travailler. Nous en fait à Angers, on est un lieu de création aussi comme le théâtre, donc notre directeur est metteur en scène. Donc nous, on a choisi depuis le début, par contre, justement, alors, je ne sais pas si c'est un gage de qualité, mais en tout cas, c'est notre charte à nous de déontologie. En tout cas, c'est de se dire, nous, on est créateurs de spectacles, metteurs de spectacles, et c'est vraiment le cœur de notre mission. Donc on a envie que ce spectacle-là soit accessible à tout le monde. On travaille toujours sur les créations notamment de notre directeur, sur les 3 spectacles audio décrits. Donc c'est compliqué parce que c'est vrai que pour Accès Culture, ils sont obligés de venir à la première et ils ont souvent que 8 jours pour préparer une audio description. Donc ils viennent voir le spectacle, ils repartent avec une vidéo et ils vont du coup travailler les descriptions des costumes, du décor, des choses effectivement qui vont aider à la compréhension, qui ne vont pas expliquer. Donc c'est pour ça qu'on fait appel aussi à eux, parce qu'à l'unité, moi demain je pourrais très bien, comme vous me disiez tout à l'heure, pourquoi je ne prendrais pas moi aussi un petit micro, puis je dirais voilà, il y a un costume rouge, voilà. Mais moi je ne ressens pas du tout l'expertise. Je trouve que justement il y a quelque chose de très fin à faire pour rester juste dans la description et pas dans le commentaire explicatif. Et puis surtout, tout ce timing aussi, de, comme vous le disiez, de être bien dans les blancs du spectacle. Être aussi pas trop en dire, etc. Alors il y a des spectacles qui sont compliqués parce qu'effectivement ils sont assez bavards, le texte est très présent, donc il faut trouver. Et donc ils préenregistrent cette description, ils travaillent, ils nous interpellent régulièrement pendant les quelques jours de la description, c'est-à-dire que notamment l'assistante à la mise en scène par exemple en disant cette scène-là, est-ce que du coup si je dis ça, est-ce que c'est juste pour vous? Et voilà, donc il y a un petit aller-retour comme ça qui est intéressant. Et puis après, du coup, le jour J, en fait, il y a un régisseur de la société culture qui arrive avec, son enregistrement. Mais par contre, c'est encore en live. C'est-à-dire que, du coup, c'est lui qui les envoie. Et quand c'est décalé, parce que c'est toujours décalé, hein, voilà, c'est pas vraiment pareil, ben voilà, il peut du coup bien jauger l'envoi des choses. Et s'il y a un changement, ce qui est arrivé aussi sur nos créations, il nous a vu sur YouTube dans l'agriculture. Voilà, un peu, il vient souvent faire une répétition, c'est vrai, il vient faire une répétition la veille, donc ils voient eux ils voient la répétition, là, mais ils ont tout changé, là.
Oui,
je suis désolée, donc voilà, donc, en fait, ils ont aussi un micro, et ils peuvent intervenir, alors ça. Les régisseurs n'aiment pas tous, c'est vrai que ça dépend avec qui on travaille, il y en a qui ont vraiment l'habitude et puis ça ne les dérange pas trop, eux aussi, de faire un peu espèce d'improvisation en live, comme ça, mais d'autres voilà, sont un peu en disant, ouais, quand même, voilà, tu devrais dû nous dire. Et nous, des fois, on ne voit même pas en fait la différence, parce que déjà, je ne suis pas toujours dans la salle, et puis bah, je ne me rappelle plus qu'à la première, scène machin, il y avait ça. Enfin, oui, c'est toujours un peu. C'est la tête des difficultés, effectivement, du spectacle vivant.
Alors, je me permets de vous interrompre, j'aurais voulu solliciter Guy. Pour deux raisons. D'une part, quand est-ce que vous nous proposez des spectacles en audiodescription ?
Quand Rachel va me trouver 6 000 euros.
Alors Guy ne s'est peut-être pas encore produit au Centre Lyrique, mais à la Petite Gaillarde à Clermont, Cabaret, le Poulailler à Saint-Pierre-Roche, oui. Et au Centre Lyrique aussi.
Non, à l'Opéra,
alors, c'est à l'Opéra, mais voilà. Alors, donc, est-ce que c'est envisageable, à vos yeux, Guy, est-ce que c'est envisageable d'une manière ou d'une autre pour vos spectacles, quitte à ce que ce soit, par exemple, une animation en préalable du spectacle, enfin, est-ce que vous pouvez envisager d'ajouter cette dimension-là
dans l'état
de médiation auprès du public, puisque dans votre public, il y a des non-voyants, il y a des malvoyants, il y a des voyants. Est-ce que ça peut être envisagé ?
Bah, dans l'état actuel des choses, c'est très compliqué parce que c'est des questions purement financières. Et moi, je préfère amener de la qualité un maximum plutôt que de faire du bidouillage parce que je déteste bidouiller. Et surtout, avec l'audiodescription, on va se trouver vite fait bien fait avec du bidouillage. Mettre un micro dans un coin, l'autre qui va parler. Je veux absolument. Mais. Plus l'association Livoirien va évoluer, c'est aussi dans notre cahier des charges de pouvoir améliorer ce que l'on fait et l'accès aussi aux déficients individuels.
Un contrat d'objectifs et de moyens, donc l'objectif il y est, les moyens sont encore en chemin, disons.
Oui, bah oui, parce que bon, nous on ne vit quasiment pas sous le système des subventions. On est quasiment autofinancé. Donc, vu qu'on est autofinancé et que les subventions disparaissent de plus en plus, voilà, donc là, il faut qu'on fasse appel de plus en plus aux mécènes qui nous apporteront la possibilité financière, un, d'avoir du matériel, et deux, de pouvoir avoir de la qualité au niveau de l'audiodescription fait par des professionnels. Bon, les amateurs, très bien, mais je ne veux pas que ce soit du patronage.
Oui.
Parce que les amateurs, c'est bien qu'on aime quelque chose, si je me rappelle bien.
Oui. Voilà. Les préconisations, comme ça, pour donner des exemples de critères de qualité ou de critères de petits défauts à éviter, encore une fois, c'est Jean-Marc Plumosil qui les citait. Vous vouliez ajouter quelque chose?
Je vais juste rajouter une petite chose concernant l'audiodescription. Ça m'est arrivé quelquefois d'aller justement à l'opéra. Et alors, j'ai été une personne qui voit avec moi. Et alors, elle s'est penchée plusieurs fois sur moi, me disant, j'ai écouté ton casque parler, mais j'ai pas bien saisi ce qu'il disait. Plusieurs fois, ça m'est arrivé. Hein. Moi, j'ai dit, bon, écoute, la prochaine fois, je te commande un casque à l'entrée. C'est en même temps la galéjade et en même temps la réalité.
Les préconisations de Jean-Marc Plumosil pour un film, alors ce que j'appelle les 12. Respecter la bande-son et tirer le meilleur parti des informations qu'elle délivre. Respecter le cheminement de l'œuvre et ses ressorts narratifs. Faire des choix appropriés au style du film. Faciliter l'écoute de l'auditeur. Et ça reste des principes sensés, mais qui laissent une grande marge à la perception, l'interprétation de ces conseils. Les dentes absolues en tant qu'auditeur, alors, doivent être évitées. C'est-à-dire des liaisons mal à propos, des répétitions, des hésitations, des choses qui rendent insupportables. Les effets sonores compréhensibles immédiatement. Vous pouvez compléter, allez-y,
je vous en prie. Je donnerai les petits exemples.
Oui, allez-y.
Là, par exemple, sur le dernier, alors déjà, quand on dit respecter la bande-son, c'est pas simplement les dialogues, c'est pas simplement aussi la musique. Par exemple, vous avez, là on a travaillé sur La La Land, vous avez tout un début en fait qui est chanté, et on avait deux possibilités, parce que là, même dans la version française, les chants sont en anglais, et donc on pouvait faire ce qu'on appelle de la voice-over, c'est-à-dire traduire en surimpression en fait les chants pour donner la traduction. Et là, en fait, en accord avec plusieurs personnes qui ont été interrogées, le producteur a décidé de ne pas traduire les chants, mais d'en donner un petit peu le contenu au départ, en fait. Mais respecter la bande-son, c'est aussi respecter les silences. Si vous avez dans un Hitchcock, vous avez 2 minutes de silence, ben, il y a peut-être une raison de rien dire. S'il n'y a rien qui se passe, il ne faut pas vouloir dire « Non, mais vous inquiétez pas, il se passe rien. » Voilà. Autre cas de figure, d'écrire correctement quelque chose. Là, vous avez une porte. Par exemple, vous avez 2 personnes dans cette pièce qui se disputent. Il y en a une qui marche, on entend marcher, et la porte claque. Donc on peut dire la porte claque. Est-ce que c'est intéressant de dire la porte claque ? Non. Ce qui est important de dire, c'est est-ce qu'il y a une personne qui est sortie ? Si une personne est sortie, est-ce que c'est elle qui a fait claquer la porte derrière elle ? Ou est-ce que c'est la personne qui est restée qui a fait claquer la porte ? Ou est-ce que c'est un courant d'air qui a fait claquer la porte ? Voilà, c'est effectivement, il faut se poser la bonne question. C'est qu'est-ce qui est compréhensible ? Effectivement, la porte claque. Est-ce que c'est important de dire pourquoi elle claque ? Et dans ce cas-là, il faut effectivement clairement expliquer tout ça, d'une façon assez courte. Il y a tout un travail, si vous voulez, ce qui est assez impressionnant de voir, c'est comment les auteurs travaillent. C'est-à-dire que non seulement ils doivent repérer le blanc entre 2 dialogues, c'est parfois quelques dixièmes de seconde, voire moins. Mais comment ils vont utiliser ce blanc ? Parce qu'il ne faut pas non plus le remplir. Et des fois, on a beaucoup de choses à dire, mais il ne faut pas dire d'une façon très rapide, en fait, quelque chose dans une scène qui est intimiste. Sinon, vous êtes complètement à contre-courant. Il faut se calquer avec l'ambiance du film, mais parfois même avec la façon le dialogue du film ou de la pièce de théâtre. Sur du Molière, on ne va pas décrire de la même façon, peut-être, que sur une pièce comique ou contemporaine. Par exemple, quand on a fait les tontons flingueurs, on s'est permis d'imager un petit peu l'audiodescription.
Vivre le film également et la scène de la cuisine pour mieux...
Je ne vous dirai pas si on a pratiqué ou pas pour savoir dans quel état il fallait
le dire. Je crois que si vous n'avez pas vu le film et que vous voulez imaginer les conditions de travail de Patrick Saonite, et s'il a effectivement imaginé revivre la scène de la cuisine, vous comprendrez pourquoi nous sourions.
Alors, mais petite chose aussi, on parlait tout à l'heure de l'écriture, et quelque part, moi je suis depuis le tout début de l'audiodescription, donc on pourrait se dire, voilà, il sait tout faire. Alors techniquement, là je me vante un petit peu, mais je sais quasiment tout faire. Et un jour, on a un collègue que dans la VH qui avait besoin d'une audiodescription d'une pastille de 30 secondes. Et il me dit, on peut faire l'audiodescription, il faut que demain je le diffuse et tout. Je dis, bah oui, on va envoyer ça à un auteur. Il dit, non, on va le faire là vite fait sur le bureau. Je dis d'accord, on va le faire tous les deux sur le bureau, puis on va l'envoyer à un auteur. On a fait quelque chose, ça nous a pris du temps. Quelque part, j'étais un peu content de ce que j'avais écrit. Et puis on a reçu un mail avec le texte de l'audiodescripteur. Il y avait, 25% de texte par rapport à ce que nous, on avait écrit. Et c'était, paf, paf, paf. On a pris notre petit papier, on s'est amusé à le jeter à la poubelle, on a enregistré ce que l'auteur a dit. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on sait écouter une audiodescription qu'on sait la critiquer, qu'on sait en écrire. Et plus les mots sont simples, plus ils sont compliqués à l'écrire. Alors,
ça prend combien de temps, en fait, de faire une audiodescription d'un film ?
Alors, sur là, par exemple, quand on a travaillé sur La La Land, les auteurs avaient 5 jours pour écrire l'audiodescription complète du film. Alors, nous, ils travaillent toujours à 2. Mais ils avaient 5 jours pour écrire l'audiodescription et on avait 2 jours et demi pour la partie technique, c'est enregistrer les voix, nettoyer les voix et produire donc les fichiers qui allaient être au cinéma, où là on n'a que la voix d'audiodescription, mais aussi mixer le son de l'audiodescription avec le film quand il va être diffusé sur le Blu-ray ou le DVD. Parfois on a plus de temps, on peut avoir des fois 15 jours pour faire le programme. Parfois, on a des délais très courts. Un autre petit gag, M6, qui nous dit, voilà, on va avoir une série de films, en fait, diffusés à Noël. Est-ce que vous pouvez le prendre en main ? Oui, on est 28 ou 29 novembre. Ça va être un peu chaud. Vous les aurez quand, les programmes ? Oh, dans une semaine. Donc, on perd déjà une semaine. Donc, il y a 6 films, d'accord. Et là, on raccroche, on dit, on y va. Et là, je rappelle, et je leur dis, mais ça ne serait pas Star Wars, par exemple ? Ah, mais on n'a pas le droit de le dire. J'ai dit, mais oui, mais moi, je vais quand même vous poser une question. Si c'est Star Wars et qu'on doit vous livrer déjà des films pour le 25 décembre, il y a 6 épisodes, mais il y a 2 façons de diffuser Star Wars. C'est les films 4, 5, 6, et puis après 1, 2, 3, ou alors 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, mais j'ai pas le droit de vous le dire. Donc, en fait, au lieu d'en avoir 2 à faire dans un délai très court, on a dû en faire 4, des films très compliqués et assez compliqués à mixer. Mais voilà, on essaye quand même de faire comprendre aux réalisateurs et aux producteurs qui, eux aussi, doivent relire le texte que l'on fait, que c'est quand même bien aussi pour la qualité d'avoir un petit peu de temps. Mais parfois, c'est très, très court.
J'avais une petite question qui revenait à une préconisation de la charte qui propose de toujours essayer de travailler en binôme.
C'est ce que je disais.
Alors, allez-y.
Alors, je suis désolé, je monopolise un petit peu la parole. Mais alors, nous, pourquoi on a choisi de travailler en binôme?
Alors, binôme, quel binôme?
Alors, il y a 2 binômes. Il y a le binôme d'auteur et il y a le binôme d'artiste-interprète, c'est-à-dire ceux qui vont lire le texte. Alors, pourquoi artiste-interprète? Pourquoi on a 2 voix? Parce que ça, c'est utile des fois, enfin, c'est utile, on change de voix quand il y a des changements de séquence. Donc, ça marque tout de suite qu'on passe d'une séquence à une autre. Ça peut être aussi très utile dans une séquence où vous avez des flashbacks, c'est-à-dire qu'une voix, alors il y a toujours une voix masculine, une voix féminine, une voix va dire ce qui se passe et l'autre va dire quand il y a des interventions de flashbacks. On n'a pas besoin du coup de dire flashback. Ou au début du film, quand vous avez, très souvent maintenant, vous avez un film avec le générique qui est incrusté ou déjà une scène qui est incrustée dans le générique. Donc quelqu'un va dire, une des voix va dire l'action, l'autre va dire le générique. Et ça se comprend du coup un petit peu mieux. Pourquoi les autres labos ne veulent pas 2 voix? Alors ils disent que ça, effectivement, ça gêne la compréhension. Non, c'est tout simplement que si vous prenez 2 voix, vous payez 45% en plus, si vous voulez, que si vous prenez une seule voix. Voilà, il y a tout un calcul mathématique, mais c'est la raison principale. Alors après, les auteurs, pourquoi on a 2 auteurs? Donc on a un auteur qui va écrire la première moitié du film ou du programme, l'autre la deuxième moitié. Bien évidemment, ils se conservent quand même pour avoir la même terminologie de description. Mais tout simplement, quand ils vont avoir fini leur travail, ils vont se l'envoyer et l'un va être le relecteur de l'autre. Et donc va proposer en fait des corrections parce qu'il ne va pas forcément comprendre ce que l'autre aura dit ou peut-être il va avoir un petit peu plus un regard un petit peu détaché par rapport à ce que la personne a décrit. Donc il va y avoir déjà une première correction et après pendant toute une journée, alors une journée ça peut être des fois 4 heures ou 5 heures quand c'est un camping paradis, sur du Star Wars ça peut être du 16 heures d'affilée, où ils vont regarder le film en oralisant en fait l'audio description. Et là, ils vont travailler vraiment non seulement sur la compréhension, sur les syllabes, mais aussi sur la diction, pour que la diction soit fluide, correcte, qu'elle ne soit pas non plus un exercice compliqué à faire, et surtout qu'il n'y ait pas interaction entre la description et le dialogue. Parce que des fois, vous pouvez avoir une description de quelque chose de très dramatique, le dialogue aussi, puis en fait, le ping-pong de réponse de... Enfin, entre le dialogue et la description, fait quelque chose d'assez hilarant. J'avais un exemple, mais je ne l'ai pas gardé avec moi. Et en fait, il y a déjà encore à nouveau cette correction où le client, c'est-à-dire le réalisateur, le producteur, un assistant, peut être là et peut demander aussi la présence d'un déficient visuel qui va lui aussi donner son avis par rapport à la première lecture de l'audio description. Et c'est pour ça qu'on travaille à 2 auteurs aussi.
Et cette présence... Oui, Guy, je
voulais juste dire une chose sur les 2 voix. Moi, je trouve pour nous, les écoutants, d'avoir 2 voix, c'est bien. Parce qu'au bout d'un certain temps, on commence à s'ennuyer.
D'accord.
C'est vrai. Hein. Ça, je sais pas, moi, si on tombe sur quelque chose de barbant, j'ai rien dit. Hein. Eh ben oui, au bout, bon, ça nous réveille, quoi. c'est vrai. Mais c'est la pure réalité. Alors que bon, si on a toujours... Ça a toujours la même voix, ouais, au bout d'un certain temps, et ben, ça part.
Un opéra de 3h30 de Mozart, ouais. C'est
3h30. Et tout à l'heure... Oui, pardon, allez-y.
J'avais une question à vous poser sur la spécificité de l'animation. Parce que moi, j'ai fait avec des élèves une session d'animation. Et alors, ils sont parti pris, ils ont fait le parti pris, c'était un aveugle. Ils ont été très simples parce qu'ils se sont posé le problème de quid du graphisme. Quelle est la charte que dit? C'est quoi la déontologie, voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on a du graphisme compliqué, apparition de l'art? Et bon, c'était... je travaille au lycée Blaise Pascal, donc on a fait Yule, en fait.
D'accord.
C'est nous. Donc, Bruno Dard, qui s'occupe de ça, me pose la question. Alors, j'ai posé la question aux élèves, ils m'ont dit, mais non, on a pris... Bon, c'est grave qu'ils m'ont... Parce que j'ai dit, il y a des gens qui peuvent percevoir des couleurs. Alors, ils ont pris des choses très simples. On n'a pas beaucoup de temps. Alors, je voulais vous poser la question de savoir du graphisme.
Alors, c'est effectivement très compliqué. On a le même problème, par exemple, quand on... Au cinéma, quand on décrit, je ne sais pas, par exemple, un Hitchcock et du Jean-Pierre Jeunet, par exemple, c'est deux univers différents, des colorisations différentes. Donc là, il faut un petit peu introduire ça aussi, mais pas aller dans le technique. Et là, effectivement, une des préconisations des déficients visuels, c'était de ne rentrer pas dans le technique. Le travelling, ça peut être intéressant, mais des fois, ça nous sort un petit peu du cadre. Alors, le cas du dessin animé, ça peut être important d'effectivement d'expliquer le trait, le graphisme succinctement. Mais par exemple, on a fait pour France Télévisions la première saison des Lapins Crétins. Je ne sais pas si vous voyez le temps qu'on a pour décrire ce qu'est un lapin crétin et comment il est. Si vous voulez. Je voulais vous dire, moi j'ai mixé 76 épisodes de Lapin Crétin à la fin, mais j'ai été déconnecté. Ça va trop vite, si vous voulez, on ne peut pas. Il faut effectivement choisir quelque chose, choisir une façon de faire et l'appliquer tout au long de la saison, tout au long de la série. Si vous voulez. Il faut vraiment s'y tenir. Mais effectivement, si on a eu un autre cas, je crois que c'était sur le prophète, où là, il y avait des graphismes un peu différents, avec parfois même des styles différents qui s'intercalaient. Et là, effectivement, on a eu la possibilité d'introduire un petit peu de description du style et du trait. Mais même chose, après, c'est quand on... Voilà, par exemple, si je décris un lapin crétin à Guy, déjà, il va me dire que je suis barjo. Mais ce que je vais dire, en fait, moi, ça va me parler parce que j'ai des références, mais est-ce que déjà, ça va être en référence avec des choses que lui va...
Alors, excuse-moi, 10 secondes là-dessus, ouais. Je tuerai. Il y a aussi l'histoire de l'aveugle de naissance,
voilà.
Et de l'aveugle tardif. Voilà, c'est tout ce que je voulais, ouais, dire.
Et une des petites idées qu'on avait avec France Télévisions, c'est comme en fait, ils voulaient décliner l'audiodescription, c'est-à-dire faire la saison complète et faire après, que ce soit sur les DVD, les trucs et tout, c'était mais pourquoi en fait ne pas mettre dans tous les produits où il y aurait l'audiodescription une figurine de lapin crétin? Parce que là, en fait, quelque part, c'est un moyen de faire quelque chose. Alors, une autre question aussi, et après j'arrête, c'est, on s'était posé la question, quand on a décrit Jurassic Park, j'ai réussi à te battre aujourd'hui. Quand on a décrit Jurassic Park, c'est est-ce qu'on dit, voilà, le dinosaure qui doit faire 56 mètres, et puis l'autre qui fait, je sais pas, 20 mètres, ou, enfin, j'exagère. Mais comment introduire les rapports et tout? Donc, on a effectivement essayé de le mettre dans la description. Et comme c'était nous qui organisions les séances de projection au cinéma, on a acheté des figurines tout à l'échelle, en fait, de tous les dinosaures, avec des figurines d'un homme et d'une femme. Et on les a mis à la sortie, en fait, de la salle. Et en fait, beaucoup de gens sont venus toucher, en fait, les choses. On en revient un petit peu au théâtre, où là, quelque part, on peut décrire les costumes, voilà, les textures, mais il n'y a rien de mieux que de pouvoir les toucher ou de pouvoir monter sur le plateau et de voir les choses.
Stéphane, voulais-tu dire quelque chose? Alors, je précise. Oui, je vous en prie.
C'est juste pour revenir sur Star Wars. Là, j'ose imaginer qu'il y avait déjà eu des audiodescriptions qui avaient été faites avant.
Non.
Ça veut dire qu'à partir du moment où il y en a une qui est faite, elle est diffusée dans tout le pays et... Comment ça se passe? En fait, j'aurais bien aimé un petit point des droits. Ça sort pas du cadre.
Je pense que dans 5-6 ans peut-être, mais là par exemple, il y a des choses complètement stupides. C'est-à-dire que vous avez, alors il y a quelques années, vous pouviez avoir le même film audio décrit 4 fois de façon complètement différente, parce que tout simplement un labo, vous ne voulez pas dire qu'un autre l'avait fait parce qu'il voulait vendre le produit. Là, vous avez parfois des films qui sont audio décrits, alors un peu moins maintenant, mais vous aviez l'audio description au cinéma, mais pas à la télé, et puis pas dans les DVD ou les Blu-ray, ou des choses comme ça. Il y a eu des aides en fait mises en place par le CNC qui imposaient, à partir du moment où ils fournissaient une aide pour le sous-titrage sur un malentendant ou l'audiodescription, que tous les produits en fait soient avec l'audiodescription. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas se contenter de le faire pour la télévision ou pour le cinéma. Mais par exemple, là on a encore par exemple Jean-Louis Navarro de France Télévisions qui nous appelle de temps en temps avant de lancer une audiodescription pour nous dire mais vous n'avez pas déjà fait cette audiodescription-là et qui en est détenteur des droits, parce qu'après il faut transmettre les droits. Mais malheureusement, il y a des choses qui ne voyagent pas. Par exemple, même d'un pays à un autre. Quand je dis d'un pays à un autre, on pourrait très bien comprendre qu'une description française a été en Angleterre, mais par exemple qu'une description française n'arrive pas en Suisse, c'est un peu plus perturbant. Ça, je pense que dans quelques années, on se dira, voilà, c'est devenu français.
D'accord.
Bah, ça, justement, ouais, sur le, d'un pays à l'autre, mais du coup, si un film a déjà été audio-décrit par anglais, il arrive en France, vous utilisez le...
Non.
Vous ne faites même pas la traduction de l'audio-description.
Alors, on ne fait pas la traduction de l'audio-description parce que l'anglais a un avantage par rapport au français, c'est qu'il occupe 25% de moins de place pour le décrire. Et c'est encore pire en allemand. L'allemand, c'est encore plus long, et en plus, le verbe est rejeté à la fin et tout. Mais, alors déjà, d'une part... c'est parfois plus long de traduire l'audiodescription et de la décrire. En plus, ce qu'il faudrait vraiment faire attention, c'est que parfois vous avez des prénoms qui ne sont pas les mêmes ou des noms qui ne sont pas les mêmes d'un film à l'autre. Donc là, il faut faire vraiment attention qu'on décrive bien la même chose. Parfois, vous avez des films qui ne se finissent pas de la même façon. Vous avez un happy end dans un endroit et un autre dans un autre. Et puis, vous n'avez, comme je vous l'ai dit, c'est encore un petit peu nuancé, on n'a pas tout à fait la même façon de décrire. On avait décrit 4 mariages et un enterrement, les Anglais l'avaient fait aussi, et nous, par exemple, on nous avait demandé de décrire Hugh Grant, qu'on avait décrit comme un beau jeune homme. Et ça, les Anglais se l'interdisaient, et les Américains encore plus. Alors que c'était clairement, le réalisateur l'avait clairement quand même choisi pour ça. Et par exemple, on a vu un extrait d'un film fait aux États-Unis où un jeune, en fait, descendait un escalier d'une université, rentrait dans des toilettes assez sombres, et là, tout de suite, déjà, rien que par ça, on comprenait qu'il allait se passer quelque chose. Et là, les Américains, quelque part, s'interdisaient de donner... quelque chose de qualitatif, en fait, sur les situations. Ils étaient très factuels. Ils en sont un petit peu revenus maintenant. Mais il y a encore quelques petites différences. C'est-à-dire que nous, on va plutôt aller dans un sens, des fois, que les Anglais vont aller dans un autre. Et puis après, il y a le problème des droits. C'est-à-dire que les droits, c'est-à-dire que l'auteur reste encore pas tout à fait propriétaire de ses droits, mais un regard, en fait. Et parfois, ça serait compliqué de traduire la description, de lui soumettre pour qu'il vérifie tout. Alors, par contre, juste un petit gars.
C'est le dernier, hein.
Bon, ouais, d'accord. On a fait Pourquoi j'ai pas mangé mon père, donc un film d'animation. Et là on a travaillé effectivement avec Jamel Debbouze et tout. Et à un moment donné, Pathé nous appelle, ils nous ont dit, mais est-ce que vous pourriez nous faire en anglais, mais américain, 6 minutes, en fait, d'audio description du film. On a dit, bah non, ça on sait pas faire et tout. Bon, ils ont dit, tant pis. Et puis, 2 jours après, ils nous disent, non, mais vous allez faire, en fait, voilà. Et bon, bah, on a dit, mais pourquoi ? On n'a pas le droit de vous le dire. Donc on a pris un Américain natif pour faire la voix, qui a contrôlé la description qu'on avait faite, c'est parti. Et 15 jours après, on a reçu un petit message, Steve Wonder vous remercie pour les 6 minutes que vous avez fait pour lui. Voilà. Donc là, c'est la seule fois qu'on a fait de l'anglais, on va s'arrêter là sur un compliment.
Ah, tout à l'heure, je souhaitais ajouter juste une chose. Vous avez cité Monsieur Jeunet, ouais. Et en fait, c'est l'un des réalisateurs aujourd'hui qui tient. Bah, Stéphane, je te donne la parole parce que tu sais ce que je vais dire et tu peux donner d'autres exemples.
T'as pas beaucoup d'exemples, mais en tout cas, c'est celui qui a décidé effectivement que les auteurs puissent vraiment travailler sur une description, même déjà à partir de. Alors, bien en amont, déjà même sur l'écriture du scénario.
Oui.
Donc, ils travaillent déjà avec
tout ça. Et ça signifie que tous leurs films sont proposés avec audio-description. Et ils ne sont pas nombreux.
Non, ils ne sont pas très nombreux, tout à fait. J'ai mis du temps aussi à essayer de trouver, parce que le problème qu'on a, nous, maintenant, c'est l'audio-description, oui, quand ça rentre en système commercial, mais après, quand ça sort de ce système-là, il n'y a plus de copies. Ils ne les gardent plus. Les scripteurs ne gardent plus ces copies en audio-description. Donc c'est devenu pour le Ciné Club universitaire, cette année on voulait faire vraiment une programmation en audio-description. Eh bien, c'est très simple, 100% des films qu'on a demandé n'avaient pas d'audio-description.
Ça devrait changer parce qu'il devait y avoir au début de l'année 2016 en fait une norme qui allait être faite par le CST. Où en fait toutes les copies, enfin à partir du moment où une audio-description existait, elle devait être sur toutes les copies de films. Donc en fait, s'ils conservaient qu'une seule copie, elle aurait été obligatoirement dessus. Alors c'était juste bloqué parce qu'en fait ils ont voulu inclure des normes sur le sous-titrage et des problèmes de colorisation. Mais je pense que ça va arriver, ça sera résolu. Le cas de Jean-Pierre Jeunet, c'est vraiment l'exemple type du très bon réalisateur. C'est-à-dire qu'on a travaillé sur le fabuleux dessin d'Amélie Poulain. C'est quelqu'un mais qui contrôle tout. C'est-à-dire quand on dit qu'il contrôle tout, il a des assistantes, mais il contrôle tout derrière. Et quand on lui a soumis le texte de l'audio description, on avait déjà quelques questions à lui poser. il a lu le texte, il a demandé le téléphone des deux auteurs, en fait, et avant même de parler du texte, il leur a dit « Mais comment vous travaillez ? Quels sont vos principes ? Quelles sont les obligations et tout ?» Et après, il a raccroché, il a relu encore l'audiodescription, il a dit « Maintenant, vous allez venir chez moi et on va revoir tout ça ensemble. » Et depuis, effectivement, il veut que tous ses films soient audio-décrits. Et par exemple, à un moment donné, il avait eu une audiodescription d'un long dimanche de fiançailles. C'était 4 jours avant la projection du film et il a refusé l'audiodescription. Parce que pour lui, le travail n'était pas de l'audiodescription. Il a fait refaire l'audiodescription à ce moment-là. Mais il s'implique et il a été le parrain d'un des festivals qu'on a mis en place avec la VH. Et il était en plein montage. Il a dit « Je ne pourrais pas venir ». Et à un moment donné, on l'a vu arriver en fond de salle et il est resté une heure.
Oui, moi j'ai une question par rapport à la place du réalisateur ou même du metteur en scène. Est-ce qu'il a toujours son... Est-ce qu'il va toujours avoir un mot à dire par rapport à l'audiodescription ou est-ce qu'il y a certains réalisateurs qui s'en fichent en fait entre guillemets?
Alors,
ou est-ce que vous envoyez tout le temps le travail au réalisateur?
Nous on demande toujours si possible à valider notre texte, soit par le metteur en scène dans le cadre de spectacle vivant, soit par le réalisateur. Si le réalisateur n'est plus vivant ou autre, par le client ou par l'adjoint ou le chargé de projet, effectivement, pour vraiment que ça aille, si possible, jusqu'au réalisateur qui ait connaissance de l'audiodescription. Et on peut toujours interpréter quelque chose un petit peu de travers, ou pas tout à fait comme le réalisateur le voulait. Ou par exemple, dans le cas du Fabuleux Dessin d'Amélie Poulain, il y a trop de choses à décrire en même temps. Il faut en choisir une parmi les 2 ou 3. Donc c'est plutôt au réalisateur de choisir. Donc là, c'est vraiment important. Par contre, il y a aussi tout un travail d'explication, d'éducation du réalisateur, c'est-à-dire que bien lui faire comprendre, on ne s'adresse pas à un sourd, mais à un aveugle, parce que ça peut arriver, et que effectivement, oui, mais on n'a pas le temps de dire tout ce qu'il veut, en fait, sinon on va effacer son film derrière et il n'y aura plus que l'audiodescription. Mais beaucoup jouent le jeu, il y a de temps en temps, par contre, des cas où on s'est mordu les doigts d'avoir eu le réalisateur, où là c'était la réalisatrice, où là, ça a été infernal. C'était infernal parce qu'elle ne voulait pas du tout comprendre le public concerné. Elle s'opposait en fait à ce qu'on voulait faire. Et à un moment donné, c'est le client, c'était la chaîne qui nous avait mis en relation, qui a dit stop. Eux, ils savent. Vous savez faire le film. Eux, ils savent faire l'audiodescription. Donc, on fait comme ça.
Bah, c'est vrai qu'en spectacle vivant, on a très peu d'allers-retours. En fait, enfin, moi, je parle en tout cas pour les productions de notre directeur. Les autres spectacles que nous avons sont souvent audio-décrits avant. Ça, c'est voilà, c'est une diffusion aussi des spectacles. Une fois qu'une audio-description existe et que le spectacle, on l'accueille, bah, tant qu'à faire, on dit bah, super, prenons-la. Enfin, voilà. C'est ça votre question. Donc, ça va être le cas l'année prochaine. Là, je sais déjà qu'on va accueillir du coup, une mise en scène de Ludovic Lagarde, d'Avar. Voilà, on l'a vu, il y a une description. Bah, moi, tout de suite, voilà, quelque part, j'ai fait une petite croix. J'ai dit, bah, super, prenons-la, elle existe. En plus, ça, même si ce n'était pas avec l'écriture qu'il y avait, mais là, moi, j'ai un gage de qualité et puis je sais comment ça va se passer. Et moi, par contre, quand c'est les créations de mon directeur, donc, ça, la création pour. Voilà, il y a une personne de 2017. En 2018, on sait déjà qu'il a monté un Shakespeare, Macbeth. Par contre, on ne sait pas plus pour l'instant, mais c'est juste la période. Donc là, ça y est, avec ses cultures, on va savoir qu'en mars prochain, il y aura... Mais voilà, et lui, c'est sûr qu'on ne va pas l'interpeller directement, parce qu'il y a effectivement le risque que vient d'évoquer Patrick, c'est que voilà, lui, il a son endroit en fait, d'artiste. Alors, pas qu'il ne se préoccupe pas de ses publics, après, je dirais pas ça du tout, parce que... Mais voilà, c'est que... Et comme on a un laps de temps quand même assez court, parce que vous voyez, on a 8 jours, même pas, pour que faire cette chose-là, il faut aller au plus simple. Donc nous, on fait confiance voilà, à l'expertise, à la technicité d'Accès Culture là-dessus. Et puis par contre, de temps en temps, comme je disais tout à l'heure, on va avoir du coup le lien avec un collaborateur. En fait. L'assistante cette année, c'était le cas, parce qu'effectivement, quand elle est venue de l'audiodescription, elle n'avait pas trop bien perçu, c'était un texte contemporain, il y avait des choses, elle ne voyait pas trop, elle avait besoin d'explications, parce qu'on a l'impression qu'on a un directeur avec un film qui est très friand de choses sur le plateau. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses, et bon, il y avait une majorette cette année. Une pièce qui paraît poétique, bon, c'est vrai que le rapport n'était pas toujours évident, mais voilà, des choses comme ça, le but d'arriver de la majorette, le but de voilà, elle avait besoin, même si elle avait compris les choses, elle avait besoin d'avoir plutôt justement sa vision à eux, pourquoi ils l'avaient choisi, plutôt que elle de dire, ben voilà, moi je pense que c'est ça. Hein. Mais on n'a pas le temps de beaucoup d'aller-retour, et puis il y a ce risque quand même, moi je trouve, avec les artistes qui des fois sont un peu éloignés quand même.
On se met en pause 3/4 de seconde pour saluer d'abord Patrick Sarnit qui est venu spécialement Pour cette table ronde, il a voyagé dans des conditions extrêmes, puisque
non, 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 je pourrais mais en faire une description, mais ça serait un peu long. Mais non, c'était amusant.
Est-ce que vous seriez prêt à revenir tout à fait. Pour la suite? Parce bien que vous sûr. Voyez bien qu'on a encore beaucoup de choses à se dire. C'était une journée qu'il nous fallait, mais bon. Merci infiniment. Est-ce que vous avez un mot à dire?
Alors, juste un petit exemple, par exemple, qui m'est venu, c'est de, à un moment donné, Rotacorp nous demande. À un moment donné, Rotacorp nous dit voilà, il faudrait décrire The Tree of Life. Donc le film dont même Jean-Pierre Jeunet n'a pas du tout compris une partie. Et là, on leur a dit, mais comment on va se débrouiller? Parce que vous mettez 10 spectateurs, il y a 10 interprétations. Mais on vous a choisi parce que vous allez vous débrouiller de tout ça.
Ok, merci.
Merci.
Bon voyage, de retour. Le chemin de la sortie, c'est bon, c'est bon, d'accord, il y a une autonomie.
Si vous me revoyez dans le secteur, okay. Je me suis un peu perdu.
Vous êtes le bienvenu, il y a des hôtels partout à Clermont-Ferrand. Hein. Et un cocktail ce soir, donc c'est bon.
Merci,
merci. Au revoir. Merci infiniment. Hein.
Guy, que je te laisse la parole.
Au revoir et merci beaucoup.
Au revoir,
le voyage.
Désolé, je n'ai pas parlé.
Et en fait, il y a une liaison intéressante à faire entre spectacle vivant, audio description et surtitrage, parce qu'au bout du compte, les approches sont très proches. À savoir qu'il faut suivre, il faut toujours garder de la flexibilité, il faut quelque part lancer le surtitrage au bon moment, il faut faire face à l'improvisation, au changement. Est-ce que vous voulez qu'on rappelle ce qu'est le surtitrage? Et à qui il est destiné, vous pouvez le faire?
Oui, bien sûr. Donc le surtitrage, nous, on le fait quasiment sur tous nos spectacles, puisque, bien entendu, on a des opéras qui sont chantés en anglais, en allemand, en italien, beaucoup. Donc on fait du surtitrage, pas seulement uniquement justement pour les personnes non malvoyantes, hein, mais aussi pour le reste du public, puisque la plupart ne sont pas bilingues, trilingues. Donc s'ils veulent suivre les paroles chantées en italien, eh bien, on fait un surtitrage pour tout public, et ce qui fait ce qui en fait bénéficier effectivement les personnes donc, malvoyantes.
Alors si vous le permettez, on passe au sujet suivant. On a d'ores et déjà abordé donc, différentes formes d'offres, des modes de diffusion, mais je pense qu'on peut aller plus loin. Cette fois-ci, j'aimerais solliciter Stéphane par rapport à une application qui peut en quelque sorte révolutionner la vie de beaucoup de personnes. On va peut-être, avant que tu ne t'exprimes, on va demander simplement déjà à Guy s'il regarde la télévision chez lui.
Moi, je regarde, mais pas beaucoup.
Voilà. Est-ce que tu regardes des films? Est-ce que tu regardes des films en audio description ou des documentaires?
Alors, ça m'arrive de regarder des films audio décrits, principalement.
Oui. Voilà.
Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on nous annonce surtout sur les chaînes de télévision qu'on croit que le film va être mis en audio description. Et ça, je trouve ça superbe. Voilà, parce qu'au moins, on est guidé. Parce que ce que j'aime bien dans les films audio décrits, justement, à la télévision, c'est qu'on n'a pas... On n'est pas toujours en train d'embêter nos proches ou les gens qui sont à côté de nous, de leur dire bah, « Tiens, qu'est-ce qui s'est passé, là ?» Parce que, voilà, je trouve ça génial, cette manière audio décrite, et aussi qu'il y en ait de plus en plus, quoi, parce que ça nous facilite vraiment l'autonomie.
Alors, il y a il y a quelqu'un qui a dans son sac un produit qu'il va nous présenter, un nouveau bien avec le système Greta.
Alors, moi, j'ai pas l'application.
Alors, sans avoir l'application, mais je présume que tu connais.
Oui, je connais le président.
Et est-ce que tu pourrais, en quelques mots, parler de cette application qui peut révolutionner l'accès à la culture pour
tout à fait. Elle a été mise en application, en fait. Enfin, ça a commencé vraiment en novembre 2016. Donc c'est tout récent. Donc, c'est une application. Vous utilisez ça sur votre téléphone, votre smartphone. Et normalement, elle est prévue pour faut juste arriver à mettre son spectacle, en tout cas le film, le DVD que vous voulez voir, et tout de suite vous avez accès à l'audio description.
Après, donc, il y a une synchronisation.
Et donc, du coup, la synchronisation se fait avec donc, le lieu où vous êtes pour écouter le spectacle.
Ça peut être dans son salon.
Exactement. Ça,
ça
peut
être
n'importe
dans
où.
Une salle de cinéma.
Ça peut être au théâtre.
Si tant est qu'elle existe.
Donc, avec les écouteurs et tout ça. Alors, pour le moment, il n'y a eu qu'une seule validation expérimentale, parce que ça reste encore à l'essai expérimental en France. C'était pour Ma vie de courgette au cinéma. Donc, tout le monde a pu venir avec son application, se poser et écouter, voir un nouveau film à ce moment-là. Donc, ça a plutôt bien fonctionné jusqu'à maintenant. A priori, cette application devrait se démultiplier.
Surtout pour le cinéma, je pense. Après, pour le spectacle vivant, il y a une petite différence quand même.
J'imagine, mais...
Parce que déjà, c'est la diffusion qui n'est pas la même. Parce que nous, spectacle, par exemple, si on prend le spectacle qui est créé chez nous, il va tourner un peu. Là, il tourne dans 4 ou 5 villes en France, mais point. Voilà. Déjà, on a beaucoup de mal, quand on vend nos spectacles, à faire accepter par les acheteurs, on va dire les acheteurs, les responsables, l'audiodescription, ça commence, ça y est, maintenant. Mais moi, depuis 10 ans, là, parce que ça fait, ça va faire la 10e année là, que nous, on audio-décrit du coup la création de notre directeur qui part en tournée. Et là, ça y est, ça fait aller 2-3 ans qu'enfin, on arrive à faire que, que ce soit alors, Nantes, Paris ou autre.
Ça, je comprends bien, c'est vraiment tout nouveau.
Ouais. Non, mais je pense que sur le cinéma, c'est extrêmement important parce qu'il y a diffusion du film.
C'est, mais ils ont décidé de le faire aussi pour les expositions, les musées, des choses comme ça. Donc, c'est. Mais après, donc, c'était.
C'est bien, quoi. C'est
pour la télévision, les DVD, le cinéma, pour le moment, c'est là-dessus sur lesquels ils sont basés. Mais le spectacle vivant fait partie aussi de l'application sur laquelle, en tout cas, ils ont envie de travailler.
Ouais, et je pense que techniquement, ils peuvent le faire. C'est juste que nous, parfois, le spectacle, il est juste diffusé à un endroit ou deux, puis point. Donc après, quelque part, la vie de l'audio-description de ce spectacle, elle est très courte, en fait.
Tout à fait.
C'est juste ça. Et donc, c'est juste la différence, en fait, avec le cinéma. Mais c'est vachement intéressant, les nouvelles
techniques. Alors, je pose une question pour le spectacle vivant. Comment l'audio-description s'adapte selon les mises en scène? Si un spectacle est en tournée, parfois il peut changer un peu entre les différentes salles. Et même entre le début de la tournée et la fin de la tournée, la mise en scène a évolué. Comment l'audio-description évolue? Et est-ce que les acteurs, les comédiens se restreignent dans la possible évolution de leur jeu?
Non. Pour nous, en tout cas, moi, pour répondre pour le théâtre, et ce que j'expliquais tout à l'heure, nous, il n'y a pas d'incidence, c'est-à-dire que l'objet artistique, il a sa vie indépendante, etc. Ils savent, parce que suivant les équipes avec lesquelles nous travaillons, et puis les artistes qui sont plus ou moins à l'écoute, ils savent que ça existe, par exemple, donc on le fait. Ils savent que tel soir, il va y avoir des publics déficients au milieu dans la salle, ça va dépendre des artistes. Mais ça n'a pas d'incidence sur leur manière de travailler. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est vrai que parfois, nous, on a eu, comme Accès Culture, par contre, va nous suivre souvent, enfin, en tout cas, dans le réseau de partenaires, parce que même si nous sommes dans un champ tout à fait artistique avec l'argent, on est dans le même réseau de partenaires. Là, par exemple, c'est le cas pour l'audio-description de cette année, pour le spectacle. Elle va avoir lieu à Paris, là au Théâtre du Rond-Point, avec notre spectacle. Et elle va avoir lieu, du coup, à Nantes et à Lyon, dans 3 villes. Donc, vous savez, c'est super, excellent. Je pense qu'on n'aura jamais atteint ce sommet, donc il faut en profiter. C'était une très bonne année. Et là, pour le coup, c'est vrai que même si l'exécution a déjà préenregistré l'audio-description, etc., je pense que surtout que ça doit être Nantes, les dernières dates, je crois, Nantes ou Lyon, enfin voilà. À ce moment-là, la personne qui va être, faire la régie de description risque d'être confrontée pas du tout au même sujet que Madame Jacques a arrangé, quoi. Et là, il sera peut-être obligé de prendre son petit micro pour réintroduire des choses, etc. C'est eux qui vont s'adapter en fait en fonction, et pas du tout l'objet artistique qui va s'adapter. Oui, c'est...
Pour que la salle soit adaptée, quoi.
Oui, c'est ça. C'est vrai qu'il y a quand même un truc technique qui doit être là. Hein. C'est sûr qu'après, avec ces cultures, ça devient aussi. C'est que nous, au début, c'était ça, quand on n'avait pas le matériel sur place, ils viennent avec le matériel aussi pour les descriptions. Donc ça demande pour eux de travailler des valises, des émetteurs, etc. Mais en tout cas, c'est, on va dire, on paye nous aussi. C'est pour ça que Rachel parlait tout à l'heure du coup. Nous, pour le théâtre, c'est un peu moins cher, mais on est rarement. Ça dépend si c'est très partagé, comme là par exemple avec d'autres théâtres, ça nous permet de réduire un peu les coûts. Donc on va être dans quelque chose qui est de l'ordre de, 1 600 € à 3 000 €. Quoi, voilà. Donc c'est un petit peu moins cher. Mais c'est vrai que, et là, du coup, avec le matériel en fait, sur place dans les structures, ça évite aussi pour eux l'intendance, mais aussi pour nous des coûts supplémentaires qui fait partie de la prestation, on va dire, d'accès culture.
Alors, On va peut-être, passer l'aspect des technologies sur place, hein, c'est-à-dire les casques, bon, l'organisation qu'on vit de toute façon quand on va, quand on choisit d'assister à un spectacle vivant avec des descriptions. J'aurais aimé qu'on s'intéresse, puisqu'on a vu cet aspect de l'offre, des sélections, des coûts et donc des innovations en matière d'application. Il est évident que des choses bougent. On a cité Greta, mais on pourrait consacrer une table ronde aux applications.
Il y a beaucoup d'applications.
C'est un monde qui fusionne en ce moment, enfin qui fusionne, qui bouillonne, qui tourbillonne. Est-ce qu'éventuellement tu souhaiterais évoquer une autre application qui est intéressante à tes yeux?
Alors non, c'est pas. J'ai resté surtout sur Greta, puisque actuellement en fait, on parlait tout à l'heure, j'ai parlé du système Fidelio qui permet en fait l'autodescription dans les cinémas et dans les musées. Et il se trouve que les cinémas qui sont équipés, en fait, l'utilisent de moins en moins. Donc malgré le fait qu'il y ait des films qui sont auto-décrits, le système d'autodescription n'est pas valorisé. Et de plus, pas du tout entretenu. Vous savez combien de cinémas à Clermont-Ferrand utilisent l'autodescription?
Non.
Non.
Pas du tout. Aucun.
Alors en fait, officiellement, il n'y en a que deux.
Ouais. Je parlais 3 ou 4 parce qu'il y a celui qui est, on l'appelle dans la zone, comment s'appelle celui-là?
Le Rio?
Non, dans le...
Le Cinédôme.
Oui, Cinédôme.
Le Cinédôme.
Il y a Jaude.
Oui, et les ambiances.
Oui.
Et il se trouve que Jaude, donc, ils étaient en travaux, mais ça faisait déjà 2 ans qu'ils ne faisaient plus d'autodescription. Le matériel ne fonctionnait plus. En plus, c'est très très fragile, donc ça prend du temps. Et donc même ça, ils prennent pas la peine, en plus, donc de voir les réparer. Les ambiances ont abandonné, puisque depuis l'année dernière, la seule salle qui était équipée ne fonctionne plus. Donc voilà, il faut aller dans le multiplex, donc dans la zone, donc le Cinédôme, si vous voulez voir des films auto-décrits. Et je crois qu'il y a une dizaine de casques sur l'ensemble des 13 salles.
Et quand tu dis donc le matériel qui est fragile, c'est les casques,
c'est... Alors c'est pas les casques, hein, parce que les casques tu peux les remplacer, c'est pas grave. C'est juste que tu as un petit boîtier, et le boîtier en fait il a besoin d'être connecté, et souvent c'est soit l'antenne émettrice, soit donc la réception qui est mauvaise, et donc du coup ça ne marche plus. Et donc ça, il faut juste le changer, et donc là les... Juste en changer un, ils vont pas le faire, mais quand tu as les disques qui ne marchent plus, ils ne veulent même pas aller dire c'est bon, je fais une dépense, je vais les prendre. Même là, ils ne prennent pas l'effort d'aller. C'est très très facile.
Ouais. Alors, nous, à Angers, on a cette chance, alors c'est à peu près la même taille de vie, enfin, je pense que ça se ressemble un petit peu, mais en fait, on a réfléchi avec des acteurs culturels différents, et notamment le cinéma d'art et d'essai. Et le festival de cinéma, parce qu'on a un festival de cinéma assez important comme les plans à Angers. Et puis d'autres, on est 11 en fait partenaires culturels à s'associer. Depuis 5 ans, en fait, on met ensemble en fait l'offre culturelle accessible aux personnes déficientes visuelles chaque saison. Voilà. Et donc on fait un document en braille et gros caractères. Voilà, une petite soirée de présentation en septembre, ça c'est pour le public. Mais en fait, on mutualise aussi nos matériels. Ouais. C'est-à-dire que du coup, on a été les premiers à investir dans la mallette, justement, avec 30 récepteurs, 30 casques, voilà. Et après, grâce à un mécène, hein, voilà, faut pas oublier que voilà, heureusement qu'il y a quand même des petits coups de main financiers, parce que parfois c'est un peu compliqué quand même, comme tu disais tout à l'heure Rachel, sur nos structures. Donc nous, on a investi là-dedans. Après, le festival de cinéma, pareil, a fait aussi une demande mécène, donc a investi, je ne sais plus, peut-être 2 ans après. Et maintenant, je pense si on a la chance. Et donc du coup, par exemple, pour nos collègues de l'opéra, qui en plus chez nous c'est un peu particulier parce que du coup ça s'appelle Angers-Nantes Opéra. C'est une structure qui est sur les deux villes en fait, hein, qui navigue entre les deux villes. Et eux n'ont pas investi dans du matériel, mais par contre, régulièrement, quand ils ont une description sur Angers, qui n'a pas forcément lieu dans notre théâtre, on prête le matériel, vous voyez, des choses comme ça. Du coup, je trouve que c'est intéressant de mutualiser du coup, nos réflexions et aussi nos moyens, qu'ils soient techniques ou autres, parce que ça, l'obsolescence du matériel, forcément, elle est là. Hein. Nous, c'est pareil, les casques, on a eu le matériel en 2009, petit à petit, ça quand même, si un casque, c'est pas cher, comme tu dis, mais après, au bout d'un moment, il faut tout réparer. Et là, ça, c'est vraiment bien, je trouve. Et ça, c'est vrai que c'est, encore une fois, c'est lié à de l'humain aussi. C'est des rencontres, c'est là on a créé un petit groupe sur la question de l'accessibilité, parce qu'on était deux, la jeune femme qui travaille sur le festival de cinéma et moi, on s'était dit, Donc vraiment, on peut parler de ça à des collègues, c'est très, très, très important, oui. etc. Et voilà, on a mis ça en place il y a 6 ans.
Et puis, il y a une chose importante aussi, c'est qu'il faut motiver les aveugles à aller au cinéma.
Ah, ça, c'est sûr. Non,
mais...
Mais c'est une vraie question de tous les jours. Ni dans mes pensées, car j'attendais mon tour en disant accès à l'information. Accès à l'information sur les programmations en audiodescription qui nous mènera à l'évolution des comportements, des pratiques culturelles. Est-ce qu'on peut, parce que c'est un point important, la communication.
Attendez 10 secondes, je vais vous donner un exemple concernant les déficits visuels. Il y a déjà, parce que je n'en ai pas encore fait, allons-y. Dans le festival culture dans tous les sens, donc c'est la 9e édition cette année, donc on a fait une soirée chorale. À partir de 20h30 le soir, une soirée chorale. Eh bien, il y a des gens entre du chorale de l'ABH qui ne voulaient pas venir. Maintenant, c'est le problème est réglé. Et vous savez pourquoi? Eh bien, je vais vous le dire. Les aveugles ne voulaient pas sortir la nuit. C'est en même temps marrant, et moi je trouve ça complètement débile. Mais complètement débile. Maintenant, ça y est, c'est fini. Ils sortent la nuit.
C'est parce qu'il y a des problèmes de mobilité, si vous
êtes là. Pas uniquement.
Non,
c'était pas ça l'histoire. Ils avaient peur. On leur avait dit que la nuit, c'était le. Alors que tous les gens qui venaient à la chorale, on leur disait: mais attends, on va te ramener chez toi. Voilà, c'est du. Même toute petite galéjeune, c'est une réalité.
Mais tout à fait. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est aussi une thématique qui peut être un jour abordée, à savoir les moyens à trouver qui existent pour créer l'équivalent de Blablacar, mais sur le plan humain. C'est-à-dire dire à quelqu'un, voilà, moi je me rends à tel endroit, pas forcément d'ailleurs, par exemple, aux entre lyriques, hein, mais je vais à tel jour à telle heure, on peut prendre le tram ensemble, on peut faire et je reviens à telle heure. On pourrait tout à fait envisager des. Ce système-là, il existe par exemple en matière d'application sur un autre domaine, un système qui permet de sur son téléphone d'être en connexion à travers l'association avec un voyant. Et vous êtes par exemple dans une situation de regarder un programme ou un menu, peu importe quoi, vous ne pouvez pas le lire, vous le prenez en vidéo, enfin vous le photographiez. L'application vous met en connexion avec quelqu'un qui voit ce que vous êtes en train de photographier, qui va vous dire ce qui est écrit. Il y a des tas de plans B qui peuvent exister, et ça c'est à développer, c'est de la médiation culturelle. Alors, en matière de communication, d'abord, comment communiquer vers? Quels moyens trouvez-vous pour communiquer vers le public?
C'est un gros débat en fait, parce que c'est vrai que dans nos structures, c'est tout est public à peu près, hein, c'est comment on touche les publics, on va dire, les abonnés qui viennent, qui sont là, ça c'est bien, c'est pratique, c'est fait. Mais après, non, et c'était une vraie question parce que quand on démarre, voilà. C'est pour ça qu'on a réfléchi beaucoup en fait. Ce document, il est venu en fait d'une femme qui s'appelle Carole Guillard, en fait, qui est une association à Angers qui s'appelle Pointillé, qui est un bug. Carole, c'est une des premières personnes que j'ai rencontrées quand j'ai commencé à m'intéresser à tout ça, on a mis en place la première description, voilà. Et elle a été, elle et d'autres, hein, mais elle a été vraiment, pour nous, un élément plus que déclencheur, parce qu'elle nous a vraiment aidés, elle nous a titillés, elle nous a testés, elle dit mais comment tu veux que j'ai les informations, moi je veux, voilà, et voilà, c'était très important. Et après elle faisait ça, c'est que pour son association, elle collectait pas mal d'infos à droite à gauche, qu'elle travaillait justement avec des personnes voyantes pour elle-même les traduire en braille, pour après donner aux membres de son association. Et ça pouvait être des visites de musées, ça pouvait être... C'est là qu'on s'est dit, mais pourquoi nous, on ne fait pas ça de notre côté, pourquoi on ne fait pas du coup un document, en tout cas sur la... C'est comme ça que c'est venu, et donc ça c'est un moyen de communiquer. Donc ça fait 5 ans qu'il y a ce document, qu'on fait une petite soirée, c'est une soirée de présentation, donc c'est un grand mot, il y a 25-30 personnes qui viennent, mais pour nous, là, sur Angers, c'est déjà intéressant. Et pour eux, maintenant, c'est un vrai rendez-vous, en fait. Donc on a quelques... Voilà, présentation de la saison, des offres culturelles accessibles, voilà.
Et comme ça fait longtemps que je n'ai pas été mauvaise langue, puis... En France, il y a à peu près 90 000 aveugles, environ. Est-ce que vous savez combien il y a d'aveugles qui lisent le braille? Ça y est, je suis mauvaise langue. Environ 7 000.
7 000 sur 90 000.
Sur 90 000 aveugles.
Voilà. Et vous parlez des aveugles aveugles ou malvoyants de manière...
Moi, je parle des aveugles aveugles qui sont aveugles. Voilà. C'est pas beaucoup, hein.
Non, c'est beaucoup,
ouais. Mais alors justement, nous, on utilise de plus en plus tout ce qui est du numérique.
Oui, voilà. Alors nous, notre question à Angers, si vous voulez, c'est que par rapport à nos publics, on avait un déficit sur ce public-là d'accès au numérique. On avait des gens qui n'avaient même pas l'adresse mail au départ quand on a commencé il y a 8 ans. Vous voyez. Donc nous, on s'est plutôt adapté à eux pour l'instant. Et on en parlait hier avec Dominique rapidement au téléphone. Et là, on est en train de se questionner, en plus dans le groupe, voilà, parce qu'on est 11 structures, donc moi je suis un peu vieille, hein, un peu un dinosaure là-dedans. Donc mes jeunes collègues, elles aussi, qui ont plus aussi voilà, le réflexe de la technologie, numérique, etc., depuis 2 ans, nous incitent beaucoup à aussi nous tourner vers le numérique. Après, comme on a ce public qui est là, qui est fidèle et qui est, pour nous en tout cas, vraiment les gens qui sont là sont des lecteurs braille, on ne voulait pas non plus se défaire pour l'instant.
Mais vous avez raison. Faut pas s'en défaire.
Non, faut faire les deux.
Faut absolument pas s'en défaire. Ouais. Mais regardez, dans des familles où il y a juste un aveugle qui est là en plein milieu de la maison, ils sont, je sais pas, 4 ou 5. Alors, bon, il y a un ordinateur qui est là. Et bien l'ordinateur, il est fait pour des fois pour toute la famille, sauf pour l'aveugle. Voilà, alors qu'il pourrait télécharger une certaine vocale gratuite, ouais, par exemple, ouais, qui s'appelle NVDA, et c'est gratuit. L'histoire, c'est qu'on dit toujours, oui, mais ça coûte cher le matériel pour les synthèses. Oui, ça coûte cher. Mais alors, il y a des synthèses vocales, comme je disais, NVDA, là, qui est totalement gratuit. Alors, bon, vous achetez un ordinateur, je sais pas, moins 300 euros, c'est pas hyper hors de prix, quoi. Pour ceux qui fument, ben, ouais,
plus le monde. Non, mais vous avez raison, hein, ça a beaucoup évolué quand même. Hein. Nous, je vous dis, je vous parle de ça, c'est vrai qu'au départ, on est plutôt allé vers ce type de choix de documents. Mais aujourd'hui, je vois une évolution dans les publics, hein, vous avez raison, heureusement.
Et puis, on a nos téléphones.
Ils sont équipés, voilà, ils sont équipés, ouais. Et moi, je dis au début, quand j'avais 10 ans, j'avais des gens qui n'avaient pas d'ordinateur, pas d'adresse mail et pas de téléphone portable. Je voulais communiquer avec eux.
Mais nos smartphones. Regardez, vous voyez, moi j'ai un smartphone, un iPhone normal, quoi. Tactile. Mais avec VoiceOver, c'est bon.
Rachid, il me semble juste, Guy, que par contre, les synthèses vocales ne sont pas, ne fonctionnent pas toutes pour, par exemple, nous, notre site internet, pour les gens publics, on n'a pas la possibilité d'être reconnu par les synthèses vocales. Donc du coup,
ça
implique tout un autre configuration de système, blablabla. Il faut refaire totalement le site internet pour pouvoir...
Oui, mais alors c'est d'autres motivations. Hein. Et il faudrait motiver les concepteurs de sites à respecter la norme W3C.
Ouais.
Tout voilà. Et il faut se dire aussi quelque chose d'important, parce qu'on parle des aveugles, des choses comme ça, mais on est tous, les personnes un peu plus jeunes, sont tous des futures personnes qui auront un souci avec, peut-être avec la vue ou avec autre chose. Il ne faut pas se dire on fait du produit pour l'aveugle, on fait le produit pour la société. Et moi, ça paraît tellement important, cette chose-là, parce que bon, c'est vrai que si on dit, écoutez, c'est cette fille qui lise le braille, elle est, on va faire un peu de braille.
Non, je vais illustrer le propos. Quand il y avait un petit rappel de chiffres, justement, en France, on recense 77 000 aveugles et 1 200 000 malvoyants ayant une acuité visuelle inférieure à 3 dixièmes après correction. Les autres personnes concernées par l'audiodescription, par exemple, sont les suivantes, peuvent être les suivantes. Les personnes âgées dont les capacités cognitives déclinent, les malades pour lesquels la cadence des images est parfois pesante, les étrangers dans leur apprentissage de la langue, tout public voyant qui écoute un film sans pouvoir le regarder, par exemple en voiture. Il y a un champ très étendu. Et j'aimerais aborder juste une petite question budgétaire. On a déjà échangé quelques chiffres, on n'est pas au bout du compte aujourd'hui dans, le montage d'un projet d'audiodescription. On est plutôt, je me mets à la place du consommateur, de l'utilisateur, de celui qui a envie d'aller au théâtre. J'ai relevé les tarifs pratiqués par le Théâtre Lyrique de Clermont-Ferrand. Rachel, êtes-vous d'accord? Condition de prix, le Centre Lyrique propose aux personnes handicapées et leurs accompagnateurs une offre
offre culturelle adaptée, privilégiant l'accessibilité et la sensibilisation avec un tarif privilégié de 12 €, mise à disposition de programmes en braille et gros caractères, visite tactile des décors et des costumes et rencontre avec les artistes proposées à 13h30. Donc, alors là, il y a la Grande Duchesse qui vous attend bientôt afin de mieux appréhender l'œuvre et sa scénographie. Voulez-vous ajouter quelque chose par rapport à cette politique-là qui est menée au Théâtre Lyrique?
Oui, bien nous, effectivement, au Sens Lyrique, on a cette volonté, justement, peut-être... qui est plus importante que d'autres secteurs. L'opéra, c'est vraiment connoté de plein de clichés, c'est vieux, c'est élitiste, voilà. Donc
c'est cher.
On fait effectivement des efforts d'action du point de vue effectivement du tarif, puisque des places de 12 € au lieu de 48 €. Ce qui est même 48 € c'est le maximum, mais mon directeur ne souhaite pas dépasser les 50 € la barrière, voilà. Mais quand on prend un opéra comme Vichy, à Vichy c'est très vite le minimum 70-80 €. Donc on est vraiment très bas en termes de coûts. Et effectivement, on a aussi cette volonté d'attirer les jeunes, de permettre de sensibiliser et de montrer la découverte de l'art lyrique. Donc effectivement, on a des programmes en gros caractères, en braille qu'on distribue. Je voulais rajouter quelque chose tout à l'heure, simplement sur le fait de ce catalogue qui est très très bien. Nous, on ne marche que par le bouche à oreille, que par aussi les associations qui nous suivent, qui sont aussi notre relais. Donc c'est vraiment sur le côté humain, bien que effectivement on a une page qui est dédiée à tout ce que l'on fait pour les publics en situation de handicap dans notre brochure et aussi sur notre site internet. Mais une fois j'avais rencontré une personne de l'ABH qui m'avait dit on n'a pas accès aux informations, ce qu'on aimerait bien c'est être traité comme tout le monde et en fait avoir pas forcément des choses comme celle-ci qui portent sur le handicap, mais on aimerait avoir connaissance de l'audio description via la presse nationale, via les radios, via la télé. Et du coup, c'est vrai qu'il y a très peu de journalistes, malheureusement, qui s'emparent de ce...
Mais il y a des sites, il y a vraiment des sites.
Mais par contre, il y a des pertories,
voilà.
Il y a une force, par exemple, qui...
Moi, je voulais rajouter quelque chose sur ce que Rachel a dit concernant les prix. Parce que ça, c'est tellement important. C'est-à-dire que, il y a quelques années, on nous disait, il ne faut pas faire payer les personnes en situation de handicap. Mais je ne vois pas pourquoi on ne paierait pas. Mais sérieux.
On est bien d'accord.
Non, mais sérieux. Ouais. Moi, c'est totalement discriminatoire. Ouais. Dans le cadre du festival, par exemple, nous, on fait payer pour les après-midi, par exemple, 3 et 5 €. Et bien, vous savez ce qu'on m'a fait il y a quelques années? J'ai une éduque d'un foyer qui m'a appelé, qui me dit, écoutez, voilà, je vous appelle parce que 3 €, c'est trop cher. Faut me le faire à 2 €. Mon Dieu, ce qu'elle m'a entendu chanter. Et pourtant, je suis un piètre chanteur. Mais elle m'a entendu chanter. Hein.
Ah, c'est important, à côté de tarifaire, je ne sais pas, il nous a plus élevé que vous. Un truc, parce que c'est 16 ou 8 euros, suivant les conditions de ressources aussi. Quoi, nous, on joue aussi beaucoup là-dessus. C'est vrai, quoi. Par contre, je suis d'accord avec vous. En fait, j'avais des réflexions, effectivement, des publics qui m'avaient dit, exactement comme vous, qui m'avaient dit ça. Et y a pas, la gratuité, ce n'est pas la solution. C'est pas ça. Le problème n'est pas là. Et puis, c'est pas ce qu'on risque de demander.
Mais ce que je trouve des fois un peu pénible, excusez-moi d'être à ce niveau-là, c'est quand on va au cinéma et qu'on paye plein pot. Moi, je sais pas, mais on en voit que 50%.
Sauf si vous le prenez en audio description, là, vous en payez plus que les autres. Vous devriez payer plus cher.
Pourquoi? Alors,
l'audio description pourrait facilement être annoncée en voix off lors des spots de présentation des programmes, par exemple. Pour le cinéma, les films audio décrits pourraient être annoncés sur les serveurs vocaux de type Allociné
pour le DVD, un logo en braille pourrait être gravé sur la pochette. Dès l'insertion du disque, un menu vocal pourrait donner la marche à suivre ou sélectionner simplement la piste de l'audiodescription. Dans tous les cas, il s'agit avant tout d'informer les professionnels en leur présentant des solutions simples, éprouvées et peu coûteuses.
C'est ça l'histoire.
Et voilà.
Moi, je suis totalement
alors, qui va écrire le mot de la fin? Et pour dire quoi? Qu'est-ce qui ressort de cette...
Qu'on parle aux pages
non,
du
coup. Mais je vous en prie, juste
qu'on parle aux plaquettes de ces pages.
Petit, voilà. On a eu des
c'est trop petit, on l'a fait. Très bien.
Qu'est-ce qui ressort? Peut-être, alors, une formule consacrée, l'union fait la force. Et surtout, justement, la mise en comparaison des situations respectives donne des idées, permet de partager des approches, fait un petit peu, contribue à faire avancer les choses. Voilà.
Mais pour moi, ça a été très important, voilà, dans la, même dans la compréhension, et on va dire, grâce déjà aux spectateurs eux-mêmes, enfin, ceux qui sont devenus nos spectateurs. Voilà. Et puis après, voilà, de travailler avec les collègues et puis de réfléchir à tout ça ensemble, et du coup de mutualiser des moyens après humains, voilà, un peu techniques et financiers, ça fait avancer les choses. Et à Angers, c'est très clair. Enfin, maintenant, on a vraiment. Enfin, on le sent, quoi. Alors après, la question reste, c'est comment aujourd'hui on sort de cette zone de confort avec effectivement notre trentaine de personnes un peu, voilà.
C'est une trop grande fidélité.
Voilà, fidélisation,
bien. Et peut-être une trop grande fidélité.
Et comment on va plus loin? C'est-à-dire voilà. Que comme vous le disiez tout à l'heure, Ricky, il manque justement aujourd'hui, il faut qu'on attaque sur le numérique, il faut qu'on soit ailleurs parce qu'il y a d'autres endroits où l'information ne passe pas.
Effectivement, ça,
oui. Ouais, mais je rajoute encore deux choses. Un, c'est le travail collaboratif entre nous. On pourra peut-être se tirer dans les pattes.
Mais qui je crois qu'on n'est pas vraiment concerné, donc c'est bon.
Non, mais je le dis quand même.
Oui, c'est bien.
Pour les autres,
voilà. Et la deux...
Ailleurs.
Non, voilà. mais c'est tellement important. Et je rajoutais aussi, parce qu'on n'a pas eu beaucoup de temps à parler, mais c'est pas grave, c'est une prochaine fois.
Je sais, je ne vous ai pas donné la parole.
Non, mais c'est pas grave, mais bon, je... Non, mais moi je pense que aussi ce qu'il faut, c'est la mixité entre personnes en situation de handicap et personnes valides dans le monde de la culture. Faut arrêter de créer ces ghettos. Moi je sais que chez nous, on n'a pas de problème quand une personne en situation de handicap va bien faire du théâtre, elle vient pour faire du théâtre, la personne valide se moque royal, à 99% du temps, elle se moque royal qu'elle a à côté d'elle une personne qui a un bras ou alors qui parle mal.
Ou qui est bavarde.
Comme vous.
ça, Guy, vous voyez, ça a été moi aussi une de mes... c'était une grosse déception pour moi quand même de voir... alors maintenant ça commence à changer, mais de voir quand même comment il a fallu travailler en interne dans les structures pour convaincre ses collègues de tout ça, parce que c'est pas si simple d'accepter effectivement la différence, de convaincre aussi le public. J'ai vu des réactions de public sur des choses terribles, sur par exemple les chiens qui sont là, ça, des choses mais qui m'ont vraiment moi extrêmement heurté. Bah, non mais alors ça évolue hein, en disant oui, il faut raconter mes déboires de début, mais quand même j'étais très très étonnée. Hein.
Vous savez Séverine. C'est pas, faut arrêter de dire que c'est les valides qui ont un regard sur le handicap. C'est aussi le monde du handicap qui n'ose pas s'aventurer dans ce monde des valides.
C'est un tout, vous avez raison, mais.
Non, mais c'est clair. Hein.
Et c'est vrai que nous, enfin, comme dans beaucoup de lieux d'ailleurs, enfin, je sais pas, c'est ou même les cinémas, c'est qu'il n'y a pas de séance dédiée. On ne fait pas un truc à 14h30, un spectacle avec tout le monde ensemble. Oui. Moi, de toute façon, je travaille pour plein de petits publics. Et ce qui est ma joie, c'est quand le soir, dans la salle, voilà, il y a une grande mixité de public, voilà, qu'il y a des chiens qui sont là, qu'il y a des gens très âgés, parce que je travaille aussi avec le CCS, avec des gens très âgés, qui effectivement ont des problématiques de handicap aussi, très clairement. Et qui bénéficient parfois des technologies que nous mettons en place. Ça, c'est très chouette. Ma doyenne, quand même, cette année, elle avait quand même 101 ans. Voilà, j'y tiens parce que c'était à. Voilà, c'était. Et ouais, dans ma journée, j'avais fait un accueil de classe le matin avec des 7-8 ans et le soir, bah, oui. Donc, ça, et ça, c'est ça. Ça, c'est très beau aussi. Oui. Je veux dire, voilà, là, on arrive.
Séverine, j'ai la même histoire que vous. Pareil. Je suis intervenu un matin en primaire, comme ça, et le soir, au milieu de l'après-midi, voilà, qu'est-ce que j'ai eu? Ben, 5 mamies, la plus jeune avait 88 ans, la plus vieille avait 95 ans, et ça pour Noël, on a monté un mini-spectacle, j'ai pas dit un petit, parce que je déteste le petit, un mini-spectacle qui a duré un quart d'heure environ, sur le Noël d'antan, et fait par ces mamies-là. Ben, c'était génial, voilà. Mais c'est ça, faut...
La salle souhaite-t-elle s'exprimer alors que nous soyons obligés de fermer la classe et de rejoindre les amis qui nous attendent peut-être un peu, on est un petit peu là du 19h. Est-ce que quelqu'un veut soit faire un commentaire, une suggestion, ou communiquer une critique également, bien évidemment.
Moi, juste pour finir, et je trouve ça dommage qu'on n'ait pas eu le temps d'en parler, mais c'est vrai que c'était un petit peu à côté du sujet, mais c'est intéressant aussi la pratique de voir rien, c'est-à-dire
tout
de
pratiquer. Fait. Oui, tout à fait.
De faire, quoi.
Tout à fait. Et c'est vrai que, alors, il se situait aujourd'hui, justement, c'était pour ça que dans le jeu, je l'ai un peu présenté comme notre candidat, parce qu'il, pour l'instant, il n'est pas pleinement immergé dans la problématique de l'audiodescription, si ce n'est qu'il nourrit la sensibilisation de mille manières, et que d'une certaine manière, il va être rattrapé par le gong, et puis il y aura des événements, il y aura des gens qui vont lui proposer de l'aider, il y aura des... Voilà, donc le tout, c'est qu'il ait les bonnes, les bons contacts, les bonnes rencontres, et que ça avance, c'est comme ça que ça se passe.
Parce que vous dites, il y a deux choses, parce que pour moi, en fait, l'audiodescription, c'est un moyen, enfin, dans la pratique culturelle, et pas dans la pratique artistique, qu'elle est amateur. Pour moi, c'est vraiment deux choses, enfin, pour moi, pour nous, souvent d'ailleurs, enfin, le jargon un peu de professionnel, mais c'est vrai que c'est une chose différente, et je pense, moi, qu'on peut être spectateur sans être pratiquant à Paris.
Non, bien sûr, mais ça peut passer aussi par là. Enfin,
ça peut, mais à l'inverse, je veux dire, beaucoup, on travaille beaucoup sur le champ aussi de la pratique amateur théâtrale dans ma région. C'est pas des spectateurs au départ, de théâtre, très peu. C'est fou, pareil, le pourcentage, c'est moins vrai pour la musique, que je connais moins, mais en théâtre, c'est quand même pas du tout une évidence, c'est très drôle. On a une forte communauté d'orientateurs amateurs et ils ne fréquentent pas forcément les lieux de professionnels. Voilà. C'est drôle, là. Ouais. Mais c'est un moyen de médiation.
Merci beaucoup.
Et alors, ceux qui veulent les programmes du Festival de Culture dans
tous les
sens,
bien évidemment, est-ce que quelqu'un veut annoncer, en dehors du Festival dans tous les sens, effectivement, qui était initialement être annoncé, est-ce que vous avez autre chose? Rachel, est-ce que vous souhaitez faire la promotion d'un spectacle quelconque?
Eh bien, oui, effectivement. Donc, on aura l'opéra de la Grande Duchesse, donc créé par le Centre Lyrique, qui débutera donc, le 6 avril en audiodescription et qui est aussi partenaire sur le Festival Culture dans tous les sens, comme quoi. Hein, on mutualise. Hein, nous aussi, puisqu'on travaille avec Culture dans tous les sens depuis un petit moment. Et voilà, donc
on va être
tout dans la brochure.
D'accord. C'est vrai. Non, juste pour dire que par exemple, c'est intéressant de tester nos descriptions. Enfin, je vais en tant que spectateur, enfin, moi je sais que c'est. Je vous engage à le faire par moi. Moi, ça m'a. Bah, forcément, c'est intéressant pour nous puisqu'on les met en place avec notre partenaire. Mais je trouve que même, c'est une autre. Ça apporte autre chose. Surtout sur la danse, moi ça m'a beaucoup marqué. Parce que voilà, c'est. Et c'est vrai qu'on se rend mieux compte après de la difficulté aussi de cet exercice et puis aussi ça devient plus à niveau. Donc, bah, moi je sais que j'écoute souvent en fait. Vous pouvez aussi aller écouter le prochain opéra.
Non, moi j'ai pas du tout de programmation pour le description.
On a vu que c'était un peu problématique.
Donc je vous remercie au nom de tous. À la prochaine fois.
Bonne soirée.
Bonne soirée. Bonne soirée. La soirée poursuit.